moi.
Rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Parce que tu travailles dans le noir.
Absolument, dans le noir.
Alors, j'ai fait un coup superbe ce soir. J'ai invité Martin Pelletier pour nous parler de la revue Rive Droite. Et j'ai invité quelqu'un qu'on avait déjà reçu à ce micro, qui est l'auteur d'un livre dont je vous recommande une fois de plus la lecture, mais enfin, je pense que c'est déjà fait, puisque on en a parlé à ce micro, j'en ai parlé dans Minutes, qui s'appelle La Révolte des Termites.
La Révolution.
La Révolution, pardon, des Termites, c'est plus grave, c'est contrairement, conformément à ce qu'on disait à Cire.
C'est une révolte qui a réussi.
C'est ça. La Révolution des Termites, qui est une très jolie fable philosophico-politique, à lire absolument, et surtout... Il faut lire la préface, je dis surtout, il faut surtout pas manquer de lire la préface, parce que souvent on ne lit pas les préfaces, et là ça serait dommage, parce que cette préface est signée Raymond Barre. Et alors elle est très étonnante, parce que elle proclame très précisément ce que Raymond Barre n'a pas fait quand il était Premier ministre, pardonnez-moi Claude Reichmann d'insister, enfin il faut bien reconnaître que s'il avait appliqué lors de son ministère, les règles qu'il défend avec tant de vigueur dans la préface de votre ouvrage, je vous garantis que il aurait rallié à lui la quasi-totalité des droites, qu'elles soient nationales ou libérales, parce qu'il a de très bonnes idées. Alors peut-être qu'il a acquis ses idées après la lecture de votre manuscrit, auquel cas, félicitations. Mais je voudrais pas quitter Raymond Barre, je voudrais quand même... Moi, Raymond Barre, je l'aime bien malgré tout, parce que c'est un des rares, il parle pas souvent... Mais quand il parle, c'est généralement pas pour faire des petites phrases en langue de bois. Alors, on en a eu un témoignage deux, trois fois. C'est lui qui a dénoncé récemment, par exemple, le complexe militaro-industriel, militaro-sioniste, c'est ça? Qu'est-ce qu'il avait dit?
C'est des mots de ce
quelque
genre.
Chose comme ça.
Le lobby israélo-américain.
Le lobby israélo-américain. Bon, alors ça, c'est très très mal. Regardez ce qui est arrivé à Le Pen pour avoir même pas dit autant. Une autre fois, il avait dit qu'une bombe qui visait des juifs se rendant à la synagogue avait tué des Français innocents. Je sais pas si... en tout cas, il est visiblement pas fait pour être jongleur au Cirque Pinder, parce qu'il est pas du grand, il est pas très adroit. Et alors là, on lui dit, Monsieur Barre, qu'est-ce que vous pensez du problème corse? Alors il répond, je lis, hein, attention, je signale à nos amis corses, pour lesquels j'ai à la fois de l'estime, de l'amitié... et une certaine pétoche, parce qu'ils ont quand même le flingue assez rapide. Alors, je lis la réponse de Raymond Barre. Invité mardi 8 janvier d'un déjeuner-débat organisé par le magazine La Vie Publique, Monsieur Raymond Barre a pour la première fois livré son sentiment sur la situation en Corse. Je lis Le Monde, alors c'est forcément sérieux. Le problème corse, a-t-il dit, ce sont d'abord les Corses eux-mêmes. Quand on va en Corse, on s'aperçoit qu'il y a les Corses qui ont émigré et qui ne reviennent que pour voter et alimenter les problèmes de l'île, et les Corses qui sont sur place et qui ne demandent qu'à se faire assister. Autrement dit, là je reprends la parole, pour M. Barre, il y a deux sortes de Corses, il y a les emmerdeurs et les profiteurs. Déjà, là, il est en train de se faire des amis. Et alors il ajoute, au cas où on n'aurait pas bien compris, pour les personnes inattentives, il faudra bien un moment leur dire, vous nous avez donné Napoléon, nous vous en sommes reconnaissants, mais si vous voulez être indépendant, prenez votre indépendance et ne nous demandez pas de vous donner le beurre et l'argent du beurre. Alors, vous vous souvenez qu'un jour, Raymond Barre, qui avait prétendu assister à l'inauguration d'un monument pour les pieds noirs, quelques jours après qu'il ait refusé de voter l'amnistie des généraux, s'était fait virer littéralement à coup de pompe dans le train par les pieds noirs qui étaient réunis autour du monument aux morts. Et il était parti en faisant un bras d'honneur Donc déjà, côté pied noir, son électorat, il vient un petit peu obéré, comme on dit. Alors là, il vient de marquer des points auprès de la population corse, le peuple corse. Moi, je trouve qu'on devrait lui poser deux, trois questions sur les Bretons, les Alsaciens, les Basques, les Lorrains, pourquoi pas. Et on est tranquille. Alors, on sait d'abord que, par exemple, l'électorat israélite, en ce qui concerne Raymond Barre, c'est terminé. Là, c'est cuit, une fois pour toutes. Les Corses, c'est râpé. Les pieds noirs, c'est foutu. Donc, il reste quand même quelques régions... dans lesquels il n'a pas encore
Il reste les baristes. Ceci dit,
il n'a pas raison. Non, écoutez.
Il a, s'agissant des Corses, il dit que les Corses ont un comportement d'immigrés.
J'ai pas lu ça. Ah bon,
non, mais
pas tous, quand même.
Une bonne partie, hein. Une bonne partie ont un comportement d'immigrés. C'est-à-dire, on va en France pour gagner de l'argent, on revient pour profiter du pays, Et sur place, on n'arrête pas de dire du mal de la France et apprenez l'indépendance. Il va falloir choisir.
Pas tous. Ça, c'est des Corses.
C'est une bonne partie.
Je suis allé en Corse pendant des années. Je dois dire que j'ai surtout entendu le discours contraire, qui était un discours extrêmement francophile.
Moi aussi.
Enfin, extrêmement francophile, extrêmement français.
Français, tout simplement.
Mais voilà ce que je voulais dire, ce que dit M. Barr, quand même, dans le cadre de sa campagne de relations publiques, c'est pas mal. Hein? Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de M. Barr. Chaque fois que vous venez, Claude Reichmann, on vous taquine avec ça.
Non, mais c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez recommencer. Je crois que Raymond Barr vous répondra lui-même, le cas échéant.
Alors, bien sûr. Alors, je termine la présentation des invités. Je disais, Claude Reichmann, entre autres pour la revue Rive Gauche, car il dirige ou il participe à une revue. Vous la dirigez ?
Je dirige, oui.
Il dirige une revue qui s'appelle Rive Gauche. Martin Pelletier présente une revue qui s'appelle Rive Droite. Vous voyez, on est ouvert pratiquement. Ce studio aujourd'hui est, on pourrait dire, c'est comme le golf, quoi. Il y a la rive droite et la rive gauche du golf. Également Fabrice Soleil, qui est journaliste au chèque du mois, et avec qui on va parler de l'actualité. Naturellement, notre excellent camarade Nicolas Bonal, qui est un habitué de cette émission. Victoria, qui vous a fait le libre journal, le mini journal, qui était micro en l'occurrence.
Mini journal,
puis pas très intéressant. Alors donc Tarek Aziz et machin truc, là, c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas fabricante d'actualité, vous êtes lectrice.
Bon, je sais plus moi, avec la. Vous avez tous les droits de toute façon avec la réforme de l'orthographe, tout est permis.
Voilà, alors on va donc parler de l'actualité. Et le premier sujet d'actualité, c'est bien sûr l'affaire que je viens de causer d'eux, c'est-à-dire l'affaire du golf. Alors, je voudrais quand même vous lire ce que j'ai eu le Monde ce soir, donc je l'ai lu, enfin je l'ai parcouru. Alors il y a une très belle manchette, un très beau titre de une qui est « La rencontre de Genève entre James Baker et Tarek Aziz, ultime tentative pour éviter la guerre dans le golf ». Alors, moi, personnellement, ça m'interpelle quelque part, parce que je me dis, mais qui est-ce qui veut faire la guerre dans le Golfe? Visiblement, il n'y a que les Américains, parce que les Irakiens, ils veulent pas. Bon. Et alors, ils nous disent, ultime tentative pour éviter la guerre. Et puis, dessous, le Pentagone annonce que les forces alliées dépassent 600 000 hommes. Alors, moi, je dis, ces gens, ou ils nous prennent pour des imbéciles, ou ils sont des fous. Parce que, depuis le mois d'août, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, six mois, ils ont mis 600 000 hommes sur place. Tout ça pour pas faire la guerre? C'est pas sérieux. À mon avis, le président Bush devrait quand même s'expliquer auprès du Congrès, essayer de leur faire comprendre pour quel motif il a déplacé 600 000 hommes pour ne pas faire la guerre.
Mais là, il a repris un vieux classique de la politique étrangère américaine qui est celui du big stick, le gros bâton. C'était Theodore Roosevelt qui avait mis ça au point au début du XXe siècle et qui disait « prenez un gros bâton, le big stick, pour discuter avec la personne avec qui vous allez discuter ». Mais là, le problème de Bush, c'est que le bâton est tellement gros qu'il n'arrivera bientôt plus à le soulever.
Il va finir par se le faire tomber sur les pieds et ça va lui faire du mal. Alors, bon, première chose, effectivement, cette argumentation absolument échevelée au terme de laquelle, dans la dernière semaine avant l'ultimatum, comme si l'ultimatum qui a été fixé par univoquement par les Américains constituait une espèce de mur infranchissable, c'est tout à fait fou. C'est-à-dire que les Américains disent, bon, à partir du 15, si vous n'avez pas bougé, c'est la guerre. Et puis maintenant, ils disent, oh là là, mais il reste plus qu'une semaine, c'est absolument épouvantable, il faut absolument trouver une solution avant le 15. Bon, la meilleure chose, ça serait de dire, par exemple, on va repousser l'ultimatum au 30. Ou on va carrément supprimer l'ultimatum, on va essayer de trouver une solution. Je dis, par exemple. Mais on a vraiment l'impression, parce qu'il ne faut pas se tromper, je pense pas que James Baker ou le président Bush soient des imbéciles complets, ils doivent quand même être un peu intelligents. Pour être président des États-Unis, à mon avis, il faut un minimum, quoi. C'est pas comme pour être président français.
Il faut un maximum.
On a vu que pour être président de la France, il n'y avait vraiment pas d'exigence particulière. Mais pour un Américain, je pense qu'il faut quand même un minimum. Eh bien, ces gens-là nous disent... oui, c'est vrai que Carter, effectivement... Bon, faites comme si j'avais rien dit. Alors, ces gens-là nous disent, on a fixé un délai, nous-mêmes, de notre propre chef, sans en référer à personne, surtout pas à nos alliés. Et maintenant, on est très gêné par ce délai parce que vraiment, il est très court. Alors, je vais signaler une chose au président Bush, il nous écoute peut-être, c'est que, effectivement, chaque jour qui passe fait que le délai est un peu plus court.
Ouais. Non, mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est pas tout. Bon, ça va se terminer, mais ce qui est frappant, c'est simplement l'information depuis le mois d'août, depuis le début août. Et visiblement, bon, il y a tout un lobby qui pousse à la guerre. Et on dit ben, maintenant, mais il faudrait tout de même que Saddam Hussein fasse un geste. Et c'est vrai qu'il ne fait pas de geste actuellement. Il a fait des gestes, il a renvoyé des otages, choses comme ça. Mais d'un autre côté, on peut dire que les Américains ont fait des gestes depuis le début. Au départ, ils étaient partis sur un embargo. Ensuite, ils sont arrivés sur un blocus et ils ont terminé par un ultimatum. Voilà les gestes qui ont été... Non, ces gestes signifient évidemment quelque chose. La guerre, je ne sais pas, peut-être simplement vouloir s'installer définitivement. C'est la théorie de Jobert qui n'est pas forcément fausse.
Ben, Jobert, il lui arrive quand même de dire des choses pas idiotes. Ça lui arrive même plus souvent que certains autres. Ce que je peux dire à titre personnel, c'est que, enfin, à titre personnel, voilà une information dont je dispose en ligne directe. J'ai un ami français qui s'occupe d'affaires immobilières internationales, de gros projets, pas d'affaires immobilières, de gros projets de construction internationale, et qui travaille notamment pour l'armée, pour le Pentagone. Et il était la semaine dernière aux États-Unis, il a rencontré un des responsables de l'intendance américaine, c'est-à-dire un des responsables du parc immobilier de l'armée américaine, qui n'est pas rien, qui lui a dit, écoutez, il faut vous préparer, nous allons avoir de lancer de gros appels d'offres, notamment sur la région où nous sommes en ce moment, parce que nous y sommes pour 40 ans. Voilà la phrase textuelle d'un haut responsable de l'armée américaine dans le domaine de l'intendance. Alors, on peut imaginer que c'est des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent, et effectivement, l'opinion qui prévaut, c'est que les Américains sont installés là-bas, beaucoup moins pour faire la guerre que pour y rester un bon moment. Ce qui, naturellement, ne fait pas tout à fait l'affaire des Saoudiens, qui n'avaient pas très bien compris la coupure. Au début, ils ont cru qu'ils invitaient juste des gens qui allaient se tenir très bien, et ça n'est pas le cas. Vous savez que, par exemple, certains soldats américains sont des femmes, ce qui est absolument effrayant pour un Saoudien.
10% en plus, oui, du contingent. Oui.
En plus, ce sont très souvent des négresses, ce qui est l'épouvante alors pour les Saoudiens, et elles conduisent des autos, qui alors là, l'irruption du grappin dans l'univers saoudien,
elles conduisent
bras nus, donc pour un Saoudien, une femme noire qui conduit une voiture bras nus, c'est quand même, il n'y a pas de mots pour qualifier ça.
Oui, je pense quand même que cette crise ne peut pas s'interpréter simplement au vu des forces actuellement en présence. On ne peut pas la comprendre, je pense, si on ne fait pas référence à cet événement extraordinaire qui est l'effacement de l'Union soviétique. Donc à partir du moment où vous avez une zone instable et un véritable appel d'air qui est créé par la disparition d'un partenaire majeur, vous avez forcément intervention de l'autre partenaire. Si le Moyen-Orient n'était pas une Moyen et Proche-Orient n'étaient pas des zones instables, il est vraisemblable que les Américains se contenteraient de les contrôler par personnes interposées. Je pense quand même qu'il n'y a pas que le pétrole dans les motivations des Américains, il y a vraisemblablement aussi le désir d'instaurer un certain ordre, une Pax Americana, qui vaut ce qu'elle vaut, on peut la critiquer, mais enfin, je ne pense pas que leur motivation soit, au fond, différente de celle-ci. Et il me semble que l'attitude de Saddam Hussein, dont on loue le caractère pragmatique, le sang-froid, etc., dans la crise, je l'entends d'ailleurs encore ce matin dans la bouche de certains éditorialistes, de certains spécialistes des affaires militaires, je ne suis pas si sûr que Saddam Hussein ait fait un aussi bon calcul. Je pense au contraire qu'il a sous-estimé la capacité de riposte américaine et la volonté de riposte américaine. Il a surestimé peut-être l'apport européen dans cette affaire, car manifestement il a joué sur les divisions des Européens et sur la rupture du front, mais je pense que les Américains se soucient finalement assez peu de la position des Européens, ils se contentent de la neutraliser. On a d'ailleurs vu le petit balai qui s'est passé dans ces jours-ci. Vous avez remarqué que Mitterrand est en train de parler, sans doute à l'heure qu'il est, on apprendra toujours assez tôt ce qu'il a dit.
Mais, oui, pour l'intérêt que ça présente, oui. Probablement.
Mais il est certain qu'on a vu au cours des jours derniers une tentative, enfin une velléité d'indépendance et de jeu personnel de la France. Ça s'est traduit par l'envoi de Michel Vauzelle à Bagdad. Et puis très vite, à la suite d'ailleurs probablement de divisions internes au gouvernement, on a vu Michel Rocard déclarer qu'il n'était pas pensable de reculer, que la lâcheté finit toujours par avoir des conséquences pires que le courage. Donc on voit bien que les positions françaises et les positions européennes, qui ont d'ailleurs pris une gifle puisque les Irakiens ont refusé de se rendre à leur invitation, ne comptent qu'assez peu pour les Américains. Les Américains se sont contentés de nous neutraliser sur le plan diplomatique, ils l'ont parfaitement fait. Baker a l'autre jour est paru sur le perron de l'Elysée, hier d'ailleurs, sur le perron de l'Elysée avec Roland Dumas, et il il a manifestement été satisfait du langage que tenait le ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que quand on nous rebat les oreilles de l'indépendance de la France et des positions autonomes, je crois qu'on se fait beaucoup d'illusions.
Oui, ça, c'est une aimable plaisanterie. Ouais. Je crois qu'il y a un argument... oui, je vous donne la parole tout de suite. Il y a un argument aussi qui explique, et c'est un des titres du Monde de ce soir, qui explique ce qui est en train de se passer. C'est, je vous lis la phrase... mise en garde d'Israël contre toute solution qui préserverait la puissance militaire irakienne. Et ça, je veux pas me citer, enfin je suis désolé de me citer, mais dans le premier numéro de Minute qui est paru après l'invasion du Koweït, on a fait un papier qui était intitulé « Le jeu secret de Bush et d'Israël » et dans lequel je disais de la façon la plus claire que le moteur principal de l'action américaine au Moyen-Orient, c'était la volonté d'Israël, et notamment la volonté d'appliquer le plan Sharon, qui est un plan particulièrement intéressant, puisqu'il vise à faire sauter le roi Hussein de Jordanie pour transformer la Jordanie en confédération jordano-palestinienne, en territoire donc dans lequel on mettrait la totalité de la population palestinienne, et notamment la population des territoires occupés, mais y compris d'ailleurs la population arabe d'Israël, en leur disant, écoutez, là, vous avez votre territoire à vous, vous êtes chez vous, vous faites une république socialiste ou une république populaire palestinienne frontière de la Jordanie, vous avez une interdiction absolue d'entrée en Israël, c'est une sanctuarisation du territoire israélien, et toute tentative d'irruption sur le territoire d'Israël serait considérée comme une agression et traitée de cette façon-là. C'est le plan Sharon qui ne peut marcher que si Hussein de Jordanie saute. Et très curieusement, il y a trois jours dans Le Monde un papier
et dans les rangs de tribune le lendemain
absolument renversant d'impudence de Marek Alter disant à Hussein de Jordanie abdiquez, foutez le camp parce que vous nous gênez. C'est tout à fait extravagant, mais ça démontre que au moins ceux qui pensent comme moi que cette affaire d'Irak a pour moteur principal la volonté d'Israël de faire Eretz Israël, c'est-à-dire le grand Israël, y compris la Cisjordanie.
Grâce à l'arrivée des 3 millions d'immigrants.
Territoire qui sera occupé par, qui sera rempli par les 3 millions d'immigrés soviétiques qui s'attendent, et qui permettra, comme le disait le Premier ministre israélien pas plus tard qu'hier, dans les 10 années à venir, de porter la population d'Israël à 7 millions d'habitants, c'est-à-dire d'en faire un État, une grande puissance du Moyen-Orient, où on aura rassemblé les meilleurs techniciens dans les domaines de l'ingénierie, de l'électronique, de l'informatique, de la radio, des radio-télécommunications, c'est-à-dire d'en faire le Japon du Moyen-Orient. C'est un objectif qui est parfaitement défendable quand on est citoyen israélien. Moi, je serais citoyen israélien, je trouverais l'idée absolument géniale. Je serais citoyen palestinien, je trouverais ça beaucoup moins intéressant. En tant que citoyen français, je dois dire que ça me laisse un petit peu froid. Je me sens pas directement concerné, sauf quand ça aboutit à un projet qui risque de faire exploser la planète et de plonger le monde entier dans une guerre qui est pas très ragoûtante.
Une petite parenthèse, on a beaucoup dit depuis le début de cette crise qu'Israël maintenait une certaine réserve qui était tout à fait louable et qu'Israël ne jetait pas d'huile sur le feu. On constate en tout cas à quelques jours de l'ultimatum qu'Israël intervient pour cette fois-ci exprimer clairement son point de vue. C'est-à-dire qu'il faut en fait, je reprendrai alors l'expression que m'a transmise un camarade officier de marine qui était dans le Golfe et qui a rencontré lui-même un officier américain, lequel lui a dit « nous allons faire de l'Irak le plus grand parking du monde ». Et en fait, la politique israélienne se résume en quelque sorte à cette formule d'assez mauvais goût.
C'est Eric Laurent qui disait hier que les experts américains évaluent à 400 000 le nombre des morts irakiens victimes de la première frappe, dans le cas d'une intervention américaine puissante et rapide, massive, comme c'est prévu, semble-t-il.
Je me permets de vous interrompre, mais vous faites quand même bon marché dans votre analyse de ce qu'est l'Irak, de ce qu'est devenu l'Irak et des intentions qu'il exprime. Il faut quand même dire à la décharge des dirigeants israéliens qu'ils sont l'objet d'un certain nombre de menaces et de menaces directes et que jusqu'à présent, comme le disait notre interlocuteur, les Israéliens se sont tenus effectivement un peu à l'écart de ce conflit sans en être bien évidemment désintéressés. mais que la volonté d'internationaliser le conflit et d'en faire un conflit, au moins un conflit proche-oriental, est quand même une idée de Saddam Hussein, même si les Israéliens ont la même. Donc on ne peut pas non plus négliger dans une analyse objective le fait que Saddam Hussein est devenu ce qu'il est parce que les Occidentaux ont voulu qu'il en soit ainsi. Si on n'avait pas voulu contenir l'Iran, il est vraisemblable qu'on n'aurait pas transformé l'Irak dans une forteresse qu'elle est devenue. Et donc, je crois qu'il faut remonter même beaucoup plus loin. Moi, je pense que la véritable cause de tout ceci, en tout cas la cause la plus immédiate, c'est la volonté de lâcher le Shah d'Iran. Ça s'est passé à la Guadeloupe, avec messieurs Giscard d'Estaing, Carter, Callahan et Schmitt. Et ce jour-là, je ne dis pas que le Shah était un personnage particulièrement recommandable, mais enfin, monsieur Khomeini ne l'est pas non plus, tant s'en faut. Et ce jour-là, je crois que ces quatre personnages ont joué avec le feu et ont véritablement ouvert la boîte de Pandore. Il est bien évident maintenant que quand on a créé une force comme celle de l'Irak, il est tout à fait extraordinaire qu'elle ne s'en serve pas. Donc je crois que la véritable cause est là. Effectivement, personne n'est innocent.
Martin Pelletier.
Je suis désolé d'être d'accord à peu près avec tout le monde. C'est sur ce que c'est dit, mais j'irai un peu...
Ça arrive souvent, ça.
J'irai un peu plus loin. Bon, il y a une politique américaine qui dépasse évidemment les questions de pétrole. Il y a une volonté des jeux, mais non seulement une mettre l'Europe de côté, mais c'est une façon de mettre l'Europe à la botte, carrément. Bon, il y a l'influence déterminante d'Israël. Ça, effectivement, tu l'as bien écrit début août, on l'a écrit, ça me semble évident. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est en quoi les intérêts de l'Europe, les intérêts de la France peuvent être compatibles avec les uns et avec les autres. Il faut pas, et je crois qu'il faut se demander toujours où est l'intérêt de la France. L'intérêt de la France est n'est certainement pas de se mettre du côté, il faut bien le dire, de l'impérialisme anglo-saxon qui, dans cette partie du monde, lui a toujours été opposé. Je prends un petit exemple qu'on avait prévu début août, dès qu'on a vu la façon dont se passait l'intervention américaine. Il était évident que la connivence syro-israélo-américaine allait aboutir à la liquidation du Liban. C'est avéré. Donc il ne faut pas jouer toujours contre son camp. La France, dans cette affaire, en envoyant, c'est pour ça qu'elle ne peut pas jouer ensuite, elle ne peut pas être indépendante, puisqu'elle a joué contre son camp. Elle est forcée maintenant dans un camp de continuer à jouer contre son camp. On va voir comment Mitterrand va essayer de sortir de ce dilemme sans issue.
Inextricable. Tout à fait. Nicolas. Mais
on parle beaucoup d'Israéliens, des Anglo-Saxons. Il faut aussi parler quand même des musulmans. Alors hier, il y a des reportages de la télévision qui ont montré que 90 ou 100% de la population algérienne est prête à soutenir l'Irak et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'immigrés, on le sait, en France, musulmans, qui vivent sur notre sol, et qu'également à France Plus, la majorité des adhérents de cette association qui est pour l'intégration sikh des beurs en France est favorable également à un soutien à l'Irak. Oui. Donc on se prépare à une espèce de guerre globale. Alors j'ai consacré un papier dans mon troisième œil la semaine dernière, dans Minutes, pour expliquer à travers le film Dune ce que signifie le messianisme chez les musulmans. Alors il faut savoir, il y a une prédiction qui dit qu'un Mahdi doit, M-A-H-D-I, doit revenir à la fin des temps et conduire les troupes musulmanes pour chasser les mécréants des lieux saints qui seront occupés par des troupes donc de mécréants commandées par un général abyssin. Et le chef d'état-major des États-Unis est noir, c'est Colin Powell. Donc ça, c'est une prédiction musulmane. Et il va falloir, ils seront 2 milliards dans 20 ans, les musulmans. Donc les juifs sont peut-être très intelligents, mais enfin 7 millions en Israël face à 2 milliards, ils auront vraiment beaucoup de mal.
Je crois que vous confondez les musulmans et les arabes. Parce que
tous les musulmans se sentiront concernés par cela, y compris, j'en connais un certain nombre de musulmans français de souche, hein, pas arabes d'origine. Mais ils sont tous... Non, de gens que je connais qui sont...
Du petit-fils de Torres, non?
Oui. Mais donc ces gens-là sont hyper motivés par ce qui se passe là-bas. Et quand les Américains prétendent de s'y installer pendant 40 ans, ils auront certainement beaucoup de mal à terme.
Oui, indépendamment de toute prophétie, il est évident que si on veut avoir une politique indépendante, on ne peut pas la mener avec un corps étranger de 4 millions de gens totalement incontrôlables.
Ce que j'ai dit 100 fois à cette antenne et dans le journal, on en revient toujours à cette question. Il y a quelque chose de parfaitement ridicule, de parfaitement grotesque dans la prétention de la France à participer à une opération de maintien de l'ordre à 7000 km de nos frontières, alors qu'on n'est pas foutu de remettre de l'ordre dans le métro. Ça, c'est quand même d'abord extraordinaire. Et en plus, on va déclarer la guerre à un peuple arabo-musulman, enfin au peuple arabo-musulman sur son territoire, alors qu'on n'est même pas capable de se faire respecter sur notre territoire par les immigrés arabo-musulmans.
Et que donc, les Saoudiens financent tous les groupes intégrés. Alors,
et dont l'Irak, dont le ministre des Affaires étrangères est le seul ministre chrétien. Des pays musulmans.
C'était flagrant également au moment des fêtes de Noël, où certains journalistes étaient bien obligés de reconnaître que le sapin et les messes se déroulaient en toute tranquillité à Bagdad, alors que c'était même pas le cas de nos soldats dans le Golfe.
Mais je voudrais revenir un petit peu. Ce qui était aberrant là-dedans, c'est que la grande messe noire du Roc, ça a choqué les gens quand on l'a supprimé, mais la messe catholique, ça, personne n'en avait rien à faire, y compris les Trois Rouges.
Effectivement, il y a eu beaucoup plus d'articles.
Manifestation luciférienne.
Beaucoup plus d'articles pour s'indigner. Pour s'indigner de la.
Je ne sais pas, mais au moins amusant.
C'est énorme. Il y a eu beaucoup plus d'articles pour s'indigner de l'interdiction qui a été formulée à l'encontre du spectacle de.
Monsieur Schmoll.
Eddie Mitchell, que d'articles pour s'indigner du fait, par exemple, qu'on n'a pas le droit de laisser les croix sur les ambulances, et ni même de poser des croix sur les 15 000 cercueils qui ont été commandés par l'armée américaine et envoyés là-bas.
Mais ce qui est très frappant dans ce domaine, je voudrais revenir un petit peu à la psychologie ou au manque de psychologie américaine. Parce que on nous dit, effectivement, on a l'impression, maintenant les gens ont l'air très surpris, ce qui était incontournable et inévitable, de voir la pression monter. Le bras de fer semble de plus en plus tenace entre les Américains et les Irakiens. On a vu ces derniers jours, notamment avant-hier et hier, que les Irakiens ont l'air de plutôt plaisanter, même si certains trouvent le rire de M. Aziz un peu sardonique et c'est frais de voir... Saddam Hussein en tenue d'apparat parler à ses officiers avec un ton grave en disant la guerre est imminente. On a l'air tout à fait surpris. Pourquoi ? Parce qu'on a eu l'habitude pendant des décennies de voir une certaine tension exister entre les Américains et les Soviétiques, lesquels jouaient un petit peu au chat et à la souris et à cache-cache, sachant qu'il y en a toujours un qui se reculerait, qui sortirait du champ d'action à la dernière limite. Or, je ne veux pas citer le monde, comme on l'a fait abondamment tout à l'heure, avec insistance, mais en fait, j'ai lu un article assez intéressant hier qui expliquait en fait que la psychologie irakienne et celle de méditerranéens, de gens qui ne raisonnent pas comme nous, pour lesquels l'honneur est une chose très importante, et qui vraisemblablement ne reculeront pas du champ d'action à la dernière minute. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est de souligner que les Américains, une fois de plus, se sont plantés, pour parler vulgairement, à propos de leurs analyses concernant l'Iran. Et bien souvent, dans les cadres politiques internationales, ils ont une analyse complètement erronée, ou bien le secrétaire d'État n'est pas d'accord avec la CIA. Et le livre d'Éric Laurent, dont vous parliez tout à l'heure, est tout à fait révélateur de cet état de fait. Et bien souvent, on a l'impression d'assister à un vaste malentendu. Pourquoi ? Parce que les Américains, dans ce domaine, font tout et n'importe quoi, tirent à hue et à dia, et n'ont jamais de politique cohérente, conséquente et soutenue dans le temps.
Je voudrais donner la parole une seconde aux auditeurs, parce que voilà, il y a un auditeur, on est exactement dans le cas d'espèce absolument classique, un auditeur ou une auditrice, c'est pas indiqué, préférez-vous les Arabes à Israël, pourquoi tapez-vous sur Israël ? Alors, c'est absolument, je dirais, caricatural d'un procédé qui est constant. Si je dis, je sais pas, l'Allemagne a tort, par exemple, de fournir des stocks alimentaires à l'Union soviétique, qui en réalité n'en a pas réellement besoin, et qui s'en sert simplement pour fournir au KGB un moyen de pression sur les populations civiles pour récompenser celles qui se tiendront bien et punir celles qui se tiendront mal, personne ne me dira que je suis un fanatique anti-allemand. On dira, c'est une opinion. Si je dis, par exemple, le Brésil a tort de tolérer qu'on détruise la flore amazonienne, parce qu'il y a un danger pour la survie du pays et à terme pour peut-être même la survie de la planète, on ne dira pas que je suis un fanatique anti-brésilien. Si je dis Israël joue un rôle dans l'élaboration du conflit au Moyen-Orient, et Israël veut appliquer son plan, enfin un plan qui s'appelle le plan Sharon, et c'est pas moi qui le dis, c'est les Israéliens eux-mêmes, et c'est Marek Alter dans Le Monde, Marek Alter c'est quand même pas n'importe qui.
Marek Alter, excusez-moi je vous coupe, mais Marek Alter, ce qui est intéressant aussi de remarquer dans son papier du Monde, c'est qu'il reconnaît, alors qu'il est citoyen français, qu'il fait en fait office d'autorité morale dans notre pays, il reconnaît servir d'émissaire pour un gouvernement étranger, en l'occurrence Israël, dans d'autres pays. Là, c'est écrit noir sur blanc,
c'est pas une vraie surprise,
voilà. C'est toujours bien de le lire.
Mais si je dis ça, si je dis les Israéliens ont tort de faire ça, ce qui est mon opinion et j'ai le droit de l'exprimer, je deviens, par conséquent, je deviens anti-israélien, c'est-à-dire antisémite, c'est-à-dire au fond nazi, et donc je suis un émule d'Hitler. Il faudrait arrêter ces conneries, pour tout dire. Vous comprenez ? Il faudrait arrêter de dire ça. Parce que ça correspond absolument pas à la réalité. Il est vrai que en ce moment, je considère comme beaucoup de mes amis, et beaucoup de gens qui ne sont pas mes amis, que la politique d'Israël est une politique extraordinairement dangereuse, qu'elle est d'abord scandaleuse dans la mesure où c'est une politique impérialiste, expansionniste, qui a une occupation des territoires palestiniens, qui a des violences intolérables qui sont exercées contre les populations palestiniennes, et que ces gens-là, après tout, ne font que faire ce que font tous les autres pays. Je veux dire, dans tous les pays, il y a des violences qui sont exercées contre des minorités. Mais tous les pays ne passent pas leur temps à donner à l'ensemble de la population mondiale des leçons de morale. Alors moi, je suis fatigué de recevoir à longueur d'année des leçons de morale de la part de gens qui font ce que les Israéliens font en Palestine. Et je le dis, c'est mon droit le plus strict, ça fait pas de moi un antisémite, c'est pas ça qui suffit à faire de moi un antisémite. Alors je suis fatigué d'être obligé de me défendre en permanence de cette accusation. Je dis, je ne suis pas d'accord avec la politique menée par les Israéliens, c'est mon droit le plus strict, je suis pas d'accord avec la politique soviétique, je suis pas tellement d'accord avec la politique américaine, à vrai dire. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de politiques dans le monde en ce moment. Je ne suis même pas d'accord avec la politique française. Mais par exemple, quand je dis que M. Mitterrand ne fait que des conneries, ça ne veut pas dire que je suis anti-français. Parce que je ne considère pas que Mitterrand incarne la France. Et quand je dis que les Israéliens se conduisent mal à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que je suis antisémite. Ça veut dire que je suis contre la politique actuelle du gouvernement israélien. En 67, j'étais pour, puisque je me suis engagé dans l'armée israélienne pour aller me battre contre les Arabes aux côtés des Israéliens. Alors, quand les prétendus philosémites me traitent, moi, d'antisémite, je voudrais qu'ils me montrent, eux, leurs états de guerre. Et puis après, on pourra discuter tranquillement. Mais à 20 ans, j'étais aux côtés des Israéliens qui étaient menacés d'être jetés à la mer par les Arabes. Alors, maintenant j'ai changé. Maintenant je serai plutôt de l'autre côté. Mais parce que la situation politique internationale a changé et que la réalité de la situation en Israël et en Palestine a changé aussi. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est une chose que je dois dire pour en finir une fois pour toutes avec ce débat. Maintenant, on va pas parler toute la soirée des problèmes du Golfe. Je voudrais qu'on s'amuse un petit peu, si vous voulez, à moins que quelqu'un ait encore une information.
Brièvement, revenir simplement sur une chose, c'est sur les conséquences. De deux choses, une, nous voyons la guerre, il y aura des conséquences économiques épouvantables. On aura également un terrorisme épouvantable. Et après coup, dans l'hypothèse même où l'Irak est battu, il y aura un tel ressentiment arabe que justement Israël sera à terme rayé de la carte. Où il n'y a pas de la guerre, à ce moment-là, l'Occident, et nous inclus malheureusement, perdons la face d'une façon définitive. Et puis alors, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, c'est que, indépendamment, parce que c'est lié, il y a depuis le début août, depuis le 2 août, une campagne de désinformation. Bon, tu es antisémite parce que tu attaques Israël, mais à l'époque, on était munichois, forcément, quand on disait qu'il fallait. Et maintenant. Les mentalités changent, les gens commencent à reconnaître en privé, du moins pas dans les journaux, parce que vraiment la censure est parfaite, hein, en privé, que les analyses qui ont été faites début août étaient fausses et qu'ils sont contre la guerre maintenant, mais ils disent mais c'est évident. Alors on a le privilège d'avoir été traître, ganelon et munichois et de rabâcher des choses évidentes. C'est extraordinaire ce changement.
Oui, on voit en plus. D'ailleurs, c'est assez gênant au bout du compte. Je regardais hier une partie de l'émission de Chavannes, et je voyais avec horreur que ce que j'avais dit la semaine précédente à ce micro, c'était à peu près ce que disait M. Cabanne de l'Humanité, ce que disait cet halluciné de Jean Edernalier. Alors ça, c'est un peu effrayant, parce que je me dis quand même, bon, c'est très embêtant d'être d'accord avec des gens comme ça. C'est très, très embêtant.
Et avec Monsieur Gaillot.
Oui, bon, enfin là, bon, j'essaie de rester courtois à ce micro, je vais continuer. Ça m'ennuie énormément, si vous voulez, de dire les mêmes choses, mais après tout, j'ai commencé avant eux. Hein.
Bon, ce qui est formidable, c'est de voir vous parler de l'émission d'hier, comme la ficelle est énorme, parce que les communistes, maintenant, montent au créneau. On a même vu sur le plateau de cette émission de Chavannes un jeune garçon qui faisait son service militaire et qui était en treillis, et qui expliquait qu'il était contre la guerre en faisant un amalgame monstrueux, comme si demain, tous les appelés allaient être pris à la sortie des casernes et envoyés parachutés dans le Golfe.
Vous avez entendu parler ce jeune crétin, c'est visiblement un type qui a été briefé
complètement,
dans les écoles du parti, là, ça se sent. Alors, ils ont choisi un débile léger, ils lui ont injecté 3 ou 4 idées simples, qu'il ressassait, dans un français d'ailleurs très extraordinairement approximatif. Je pensais à quelque chose en le regardant, je me disais, quand on pense que la totalité de l'intelligence française est en train de se déchirer autour d'une histoire d'accent circonflexe, et qu'on voit ce qu'un jeune français de 20 ans est capable d'exprimer comme idée et dans quelle langue il est capable de l'exprimer, à mon avis, comme disait excellemment Hélène Carrard-Ancos dans un papier du Figaro, il y a beaucoup plus urgent que la réforme de l'orthographe. Faudrait peut-être apprendre aux jeunes français simplement 3 choses,
sujet, verbe, complément,
lire, écrire et compter, sujet, verbe, complément, et puis simplement à s'exprimer. Oui. Parce que ce garçon, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Si on, bon, on sait ce qu'il a dit parce qu'on en tire, des conclusions. C'était... du flot de paroles chaotique qui est sorti de sa bouche, mais en réalité, il n'a rien dit d'intelligible, absolument rien.
C'était du Roland Barthes.
Il a dit, je voudrais pas déserter, la désertion, non, pas l'appel à la rébellion, mais nous, jeunes soldats, nous appelés du contingent, pas du tout là-bas, quoi, parce que, et puis, Cabane a dit,
c'est formidable,
je voudrais dire, en admiration pour ce jeune militaire français. C'est extraordinaire. D'abord, être admiré par un communiste, déjà, il n'y a qu'une chose à faire, c'est sauter par la fenêtre, parce qu'on est sûr qu'on se trompe. Bon, voilà, enfin bref.
Il méritait 60 jours d'arrêt de forteresse, plus le conseil
de
guerre.
Alors, on va voir, Martin, ce qui va se passer, parce que je vous rappelle qu'il y a un officier de marine français,
Martin, le capitaine de frégate,
capitaine
Martin,
de frégate, oui. Martin, qui a été très sévèrement sanctionné pour avoir dit 1000 fois moins dans une lettre publiée par le Figaro, sous sa signature. Lui, il a été frappé de sanctions disciplinaires, il a été muté, enfin vraiment, il a morflé, comme on dit. Alors on va voir ce que ce jeune Eric, qui normalement, effectivement, devrait faire 60 jours de forteresse minimum, va avoir. Il y a quelques années, il aurait pris 11 balles dans la peau, mais on n'en est plus là. Alors, si vous voulez, là, ça, le laxisme...
c'est vrai, c'est pour apprendre le français.
Claude Reichmann.
Oui, ce que je voudrais signaler, ce qui m'a frappé dans cette émission d'hier soir que j'ai vue, et ainsi que dans un certain nombre d'autres émissions ou déclarations, c'est l'extraordinaire recul du patriotisme. Je veux dire par là qu'on peut être tout à fait contre cette guerre, et quand on y va, y aller contraint et forcé. Mais les déclarations ne disaient pas ça exactement. Non. Bien sûr qu'ils disaient qu'ils étaient contre. Mais ils étaient contre le fait de se battre pour leur pays. Et ça, c'est quelque chose qui m'a absolument...
C'est effarant de la part des mères
effaré,
de famille.
Oui, tout à fait.
Parce que les musulmans prendraient le pouvoir demain en France, elles diraient la même chose.
Voilà, mon
pas
fils
question que mon fils
va
se battre, mon fils à moi, il ne doit pas mourir.
Ils étaient contre pour de mauvaises raisons.
Voilà. Ouais. Et ça, c'est quand même très grave.
Il y a eu un signe hier. J'en parle depuis ce matin, je m'aperçois que personne ne l'a remarqué. Très très peu de gens l'ont remarqué. Moi, je crois beaucoup aux signes. Il y a un type qui est venu. Un type d'ailleurs qui avait l'air assez baraqué, assez vigoureux, avec un pullover blanc, le cheveu court, et qui a dit, il a interpellé le colonel qui était là. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est extraordinaire, c'est que l'armée française n'avait à trouver, à envoyer qu'un colonel en civil vêtu d'un costume moutarde qu'il faisait ressembler au clown Pipo, et qui en
moutarde,
plus avait une voix de castrat. Alors c'était extraordinaire, parce qu'on entendait un colonel de l'armée française qui disait, mais pas du tout, attention. Enfin bon, c'était absolument effrayant, accablant.
C'est vrai que c'est terrible.
Bon. C'est vraiment à s'engager dans les troupes antimilitaristes.
C'est un agent américain.
Le type qui a pris la parole a dit, voilà, mon fils est sur le Clémenceau. Il fait son service militaire sur le Clémenceau et il est envoyé là-bas, et c'est inadmissible d'envoyer, vous envoyez des appelés. Il est allé voir le commandant pour dire qu'il voulait pas partir. On a refusé de l'écouter, ce qui est une sanction, c'est inimaginable de violence, hein. Bon. Mais le type a dit une chose qui était extraordinaire dans le contexte. Il a dit, je m'appelle Monsieur Dugenoux, je suis de Vaux-en-Velin. Voilà un gars qui habite effectivement une ville qui a été livrée aux pillards halogènes pendant plusieurs jours. Donc ce type, il est là sur place, il a vu sur place ce que ça veut dire, le soulèvement des masses arabo-musulmanes dans un pays d'occupation. Et donc, ce que ça voudra dire, si vraiment il y a un coup de Trafalgar avec l'Irak, si ça va mal, et s'il y a un soulèvement arabo-musulman en France, de l'immigration arabo-musulmane. Ce qui est vraisemblable, c'est pas exclu du tout. Lui, il a vu sur place ce que ça veut dire.
Pas tout ceci, c'est la même chose, c'est le recul du civisme, c'est la même chose qui consiste à laisser quelqu'un agresser une personne dans le métro sans intervenir, à ne pas aider le passant qui est en difficulté, à refuser de servir son pays. Bah, tout ceci, c'est pas faire preuve d'un nationalisme étroit ni borné que de dire que quand un pays vous apporte quelque chose, il faut aussi lui apporter quelque chose en revanche et en retour. Oui, donc, je crois que c'est tout simplement le bon sens, et malheureusement, on voit actuellement, et ça n'est pas un hasard, le recul de l'esprit civique, et je ne dis pas qu'il a été programmé, je ne vois pas des complots partout, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que la politique qui a consisté à faire des Français des assistés, à leur promettre bons et merveilles contre rien du tout, et surtout à les rendre envieux et jaloux les uns des autres, a fini par aboutir à la véritable catastrophe sociale que nous vivons en ce moment dans ce pays, et par une catastrophe nationale, parce que ce pays ne pourra plus se défendre lui-même, et un pays qui ne se défend plus est un pays mort.
Je voudrais faire remarquer une chose, je vous donne la parole dans l'ordre. C'est que c'est un des aspects intéressants de votre livre, la révolution des termites, c'est que, en fait, ces termites jouent un rôle très très positif en détruisant un système, il provoque la renaissance Exactement. De l'esprit de solidarité et Exactement. Du civisme. C'est pour ça que je conseille vraiment de lire ce livre, qui est un fort beau livre et un livre d'espoir. Martin Pelletier, une seconde.
Moi, j'ai juste une seconde. Je ne peux que m'associer à ce qu'il vient de dire à ma droite, sauf une chose. Je crois que ça a été programmé précisément. C'était programmé via l'Éducation nationale.
Oui, Nicolas Bonnage.
Je ne sais pas si ça a été programmé, mais en tout cas, ça a été annoncé. Cette paresse intellectuelle est qualifiée par Tocqueville de despotisme mou. Despotisme mou qui gêne, comprime, là je cite, c'est dans un article, gêne, comprime, énerve, éteint, hébète, et réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux. J'ajoute en recitant Tocqueville, la démocratie risque alors de rapprocher nos nations de la Chine et, citation de Tocqueville, de faire des chrétiens que nous sommes des Turcs. Et à propos de ce que vous disiez, recul de l'esprit civique également, recul de l'esprit familial, la démocratie, là je cite totalement Tocqueville dans l'article, la démocratie ramène sans cesse l'homme vers lui seul, menaçant de le renfermer dans la solitude de son propre cœur.
Il a inventé le cocooning
Oui, c'est ça.
J'ai des références dans l'interview que vous avez publiée aujourd'hui du père
Gilbert
dans Minute, et c'est tout à fait passionnant parce que, enfin, vous le disiez dans l'introduction de votre article, ça n'est pas d'habitude ce type de prêtre que vous interviewez, mais ce qu'il dit de la famille est tout à fait passionnant. Et effectivement, la rupture du lien national pour les immigrés, ainsi que la rupture du lien familial, crée des situations vraiment explosives. Et on est en train en France de jouer avec le feu, non pas simplement avec les halogènes, comme vous dites, mais avec l'ensemble des Français. Nous allons tous bientôt être de véritables halogènes dans notre propre pays. Oui. Et ça, c'est dramatique.
Je crois que l'interview, je vous remercie d'en parler, parce que je suis particulièrement fier d'avoir publié dans Minute la France, ce qui est le nouveau nom du journal, et c'est un fort beau nom, je trouve, cette interview du père Gilbert. C'est vrai que c'est tout à fait inattendu de publier une interview du père Gilbert qu'on connaît sous le sobriquet de curé des Loubards dans Minute la France. Il va falloir s'habituer, ça va être un petit peu long, mais ce qu'il dit est passionnant. C'est vrai que c'est un langage un petit peu brut de décoffrage, si j'ose dire, que le personnage a une allure qui est inattendue, avec les cheveux longs, avec des bagues, avec son cuir, avec ses insignes plantés dans le cuir, etc. Mais quand il parle, on s'aperçoit que c'est un véritable prêtre, pour commencer. C'est pas un petit curé rose qui fréquente les salons de la bourgeoisie socialiste. C'est un véritable prêtre. Et quand les questions urgentes, importantes se posent, il y répond très directement. Sur la famille, il répond très directement. Et on lui demande, moi j'aime beaucoup cette dernière question, parce que, enfin sa dernière réponse plutôt, et j'ai fait d'ailleurs le titre du papier là-dessus, voilà, il dit, nous vivons dans l'ère de l'égoïsme, de la performance sur l'extérieur, tout, il faut se foutre de l'extérieur, les drogues multiples, la drogue du bruit, la drogue de la musique, la drogue tout court, et revenir à l'intériorité, à la prière. Et il ajoute,
c'est extraordinaire.
Extraordinaire. Ici, toute drogue est proscrite, et celui qui contrevient à cette règle prend ma droite évangélique en pleine gueule. Bon, moi, les curés comme ça, qu'est-ce que vous voulez, qu'ils soient à Saint-Nicolas-du-Chardonnay en soutane avec des gros souliers ferrés, ou qu'ils soient habillés en cuir avec des cheveux dans le cou, c'est Don Camillo. Je disais tout à l'heure de relire Don Camillo de Giovanni Guareschi. C'est exactement ça. C'est un saint. C'est des personnages de saints. De saints du Moyen Âge. Ce sont des moines guerriers, ce sont des moines soldats. Et je suis très très content d'avoir publié cette interview qui a été faite par Nicolas Gauthier. J'étais tout à fait contre au début. Quand il m'a proposé l'idée, je dis mais on n'en a rien à faire de ce bonhomme. Qu'est-ce que c'est? C'est une caricature. Je me suis totalement trompé. C'est quelqu'un de fort respectable.
Mais vous avez reconnu votre erreur, parce que vous l'avez publié.
Ça, c'est la moindre des choses quand on se trompe, de reconnaître qu'on s'est trompé. Alors, on va peut-être...
J'ai une question d'une auditrice, pardon, qui pose une question précise. Pourriez-vous préciser les pouvoirs de guerre du président Bush 6 mois après ses premières initiatives? Pourrait-il décider de la guerre sans le vote du Congrès?
Je crois que la réponse est oui.
Je crois que c'est un peu comme en France,
mais en fait oui, et il l'a d'ailleurs plus ou moins annoncé, il a dit que de toute façon, d'ailleurs on n'a jamais vu une guerre se décider par un vote d'une assemblée, c'est absolument impensable, la guerre c'est forcément à un moment ou à un autre une décision solitaire. Et
quel que soit le texte constitutionnel, ce soit toujours
facile. Ouais, bah, en France en tout cas, la déclaration de guerre par la France à l'Allemagne, en septembre 39, n'a pas été le fait d'une décision du Parlement. On a utilisé un biais législatif en faisant voter des crédits, je crois que c'était 74 milliards de crédits par le Parlement, Mais la décision de déclarer la guerre a été prise par trois hommes, je crois, dans le secret d'un cabinet. Et il faut lire là-dessus les mémoires d'Anatole de Monzy, ou mieux encore, d'ailleurs, le livre de François Brignot, 39-40 années terribles, où il y a tout, enfin, tout ce qui est à savoir sur cette période est parfaitement et clairement expliqué. Donc on est aujourd'hui dans la même situation, je pense, peu ou prou.
Pour clore un petit peu ce débat en matière de politique internationale, je dois tout de même dire deux, trois phrases sur ce qui se passe en Lituanie. Parce qu'on a beaucoup parlé, ce qui, actualité oblige, du Golfe, on a beaucoup parlé d'émir pour lesquels l'élite vraisemblable de l'armée française va peut-être mourir, sans dramatiser, sans exagérer, c'est peut-être ce qui peut se produire. Par contre, il est vraisemblable, et c'est un petit peu la rançon de ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale, qu'on ne lèvera pas le moindre petit doigt pour les Lituaniens et pour les Baltes et pour tous les gens des républiques soviétiques qui vont être mis au pas par Gorbatchev. Et ça me semble tout à fait important. Moi, j'ai eu l'occasion l'été dernier d'aller dans les pays baltes, à Tallinn, à Riga et à Vilnius. Je me suis rendu compte, un petit peu comme en Roumanie, que ces gens, comment dirais-je, nous regardent avec la plus grande attention, qu'ils portent beaucoup d'espoir sur nous, et que malheureusement, il est vraisemblable qu'une fois de plus, on les décevra. Alors on se retrouve dans une situation aussi curieuse que la suivante, d'un côté des émirs qui nous regardent avec une moue dégoûtée pour lesquels on va peut-être mourir, et de l'autre des gens qui en fait, notamment les Baltes qui sont des gens de ces peuples de l'Est qui nous sont très proches, qui sont comme des cousins très proches, qui attendraient sans doute une aide quelconque et qui vont se faire sans doute écraser, mater dans la plus grande indifférence. Ça me semble assez triste et je voulais simplement...
au moment le plus opportun, car vous avez remarqué bien entendu sûr, c'est que comme cette offensive n'arrive qu'au moment où l'Amérique est occupée ailleurs et que...
Tout n'est que négoce sordide, aussi bien les chrétiens du Liban sacrifiés sur l'autel de la Syrie, de la même manière, et bien maintenant, ce sont les Lituaniens qui sont obligés de se mobiliser pour défendre leur parlement, alors que les parachutistes soviétiques de M. Gorbatchev ont décidé de courir après ceux qu'on appelle déserteurs, et qui en fait ne sont pas des déserteurs, car ils ne refuseraient sans doute pas de se battre pour leur propre pays, mais ils sont réfractaires à endosser l'uniforme de l'armée rouge.
C'est-à-dire que ceux qu'on appelle les déserteurs, c'est très exactement comme le réfractaire au STO, c'est très proche de ce que pouvait être le réfractaire au STO pendant l'occupation. Alors effectivement, les soldats allemands les recherchaient, pour les envoyer en Allemagne, je pense que la presse internationale à l'époque n'avait pas l'impudeur de les appeler des déserteurs. Tandis qu'aujourd'hui, quelqu'un qui résiste à la volonté d'incorporation, à la volonté, oui, d'annexion et d'incorporation forcée dans l'armée rouge est considéré par la presse internationale et par les médias comme un déserteur.
C'est exactement ce qui s'est passé sous la Révolution française, où ceux qui ont refusé la conscription étaient des brigands.
Oui, c'est ça.
Enfin, pour résumer, si notre cœur bat difficilement pour Koweït City, il est tout de même il bat plus facilement et avec plus de vigueur pour Vilnius.
Alors, j'essaye de détendre un peu l'atmosphère depuis tout à l'heure, mais vous me ramenez toujours à des sujets. Qui a dit, de toute façon, si des terroristes en France utilisent des armes chimiques ou biologiques, les poseurs de bombes mourront en même temps que leurs victimes. Ce qui est médiocrement réconfortant. Personnellement, qui crève ou qui vive, ça me laisse de marbre. Dans la mesure où moi je vis, c'est un petit peu ce qui... Moi et ma famille, et mes amis et mes proches, et puis mes concitoyens, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur la réalité du danger. Il est évident que, comme je le disais tout à l'heure, la masse arabo-musulmane en France, si elle est mobilisable, si elle l'est, j'en sais rien, on n'a pas d'expérience de ça, on peut pas dire si elle l'est. Mais si elle l'est, c'est par un mot d'ordre du genre de celui qui pourrait lancer un Saddam Hussein qu'elle sera mobilisée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? On n'en sait rien, mais il est probable quand même que certaines dispositions ont été prises, que des équipes ont été envoyées pour des actions éventuelles.
À ce propos, un agent des PTT nous indique que depuis quelques jours, et en raison des événements, il est demandé au personnel de signaler tout objet suspect et de toute personne étrangère au service.
C'est intéressant. Ça veut dire que d'habitude, on ne demande pas aux gens des PTT de signaler
les objets
suspects.
Oui, mais en ce moment, on a dû leur redemander.
Quand vous avez
de
un colis qui sent la poudre noire et qui fait tic-tac, vous pouvez téléphoner à votre supérieur.
C'est peut-être tout simplement que tout objet suspect est un objet à porter. Ça oblige à travailler. Oui. Là, je suis médisant.
Je voulais dire une chose par rapport toujours à ce problème de démission civique dont parlait M. Reichmann tout à l'heure. C'est ces gens qu'on a vu hier à l'émission de Chavannes, ses parents, ses mères, qui menaçaient le colonel Dufour présent en lui disant, en gros, si tu continues à dire que mon fils peut partir là-bas ou à sous-entendre qu'il y a une guerre, on va te tuer. C'était à peu près ça. C'est les mêmes que l'on retrouve face aux enseignants quand les enseignants demandent aux élèves du travail et de l'obéissance, et qui vont jusqu'à frapper, voire jusqu'à tuer maintenant les enseignants comme ça. C'est-à-dire, ils ont fétichisé leurs enfants. C'est devenu des fétiches. Ce ne sont plus des êtres humains qui peuvent progresser et à qui il faut de temps en temps donner un coup d'une droite évangélique pour qu'ils progressent intellectuellement, spirituellement. Ce sont des objets, des colifichets, des fétiches. Il ne faut plus y toucher. Ils sont tabous. Et le premier qui essaye de les toucher, on le démolit. Et évidemment, cela n'empêche absolument pas qu'il n'y a plus de vie familiale. Simplement, le gosse est là comme la télévision, comme la voiture, comme un appareil de téléphone, comme je ne sais pas trop quoi, et il ne faut plus du tout l'effleurer.
C'est un objet de consommation.
C'est un objet de consommation, oui, mais privilégié.
Je voudrais, en tant que père de famille, ce que vous n'êtes pas, mon cher Nicolas, je sais que ça va venir un jour, mais c'est pas le cas, je voudrais quand même donner mon opinion là-dessus. C'est vrai qu'il y a des gens qui fétichisent leurs enfants, qui les idolâtrent, mais il y a aussi des gens comme moi, qui considèrent qu'un enfant, c'est quand même un ou des enfants, et si possible des enfants, c'est quand même quelque chose de très important, parce que c'est ça qui nous prolonge, qui prolonge notre race, qui prolonge notre culture, notre civilisation, et que on sait, quand on met un enfant au monde, dans ce monde-là, qu'il y a un risque, étant donné ce qu'est ce monde, c'est que cet enfant, un jour, soit contraint de donner sa vie. Ce qu'on espère, c'est qu'il donnera sa vie pour une bonne cause, pour une noble cause.
Non, mais là, c'était pas le problème, ça.
Non, j'entends bien que c'était pas le problème. Mais je pense à ce que je disais la semaine dernière. Moi, je ne tolérerai pas que mes enfants aillent se faire tuer en Arabie Saoudite, parce que je répète que le sort des Saoudiens et des Koweïtis m'indiffère. Et j'ajoute que quand je parle du sort des Koweïtis, c'est un abus de langage, parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, au Koweït, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des Pakistanais, des Palestiniens. Et les Koweïtis sont sur la Côte d'Azur. Donc je ne pense pas que Saddam Hussein menace directement les palaces.
Oui, mais pardonnez-moi de vous interrompre, Serge de Bekech, mais je crois que dans votre explication, vous ne dites pas vraiment le fond de votre pensée. Pardonnez-moi de vous l'interpréter peut-être abusivement. Quand vous dites « je ne tolérerai pas que mes enfants aillent se faire tuer au Koweït », je suis certain que vous n'agiriez pas en disant « parce que c'est mes enfants », vous diriez « parce que c'est une mauvaise politique ». C'est ça. Et vous agiriez d'une manière politique également. Ce qui est critiquable dans la réaction que Nicolas Bonnal signalait et que nous avons tous remarqué hier soir, c'est que les gens ne se plaçaient pas sur le terrain collectif, ils se plaçaient sur le terrain personnel. C'est mon enfant et je ne veux pas qu'il y aille.
C'est à moi.
S'ils avaient dit je ne veux pas que les Français y aillent parce que ceci, parce que cela, ça devenait une prise de position politique et donc intéressante et valable. Donc, et je suis persuadé que c'est ce que vous vouliez dire.
Oui, c'est exactement ce que je veux dire. J'ajoute que j'ajoute ce que je disais aussi la semaine dernière, que si la décision est prise et si le pays est engagé dans un conflit, eh ben, on fera ce qu'on appelle notre devoir.
Exactement.
C'est-à-dire notre devoir de citoyen, qui est d'accepter les circonstances contre lesquelles nous avons tout fait. On aura tout fait jusqu'au dernier moment pour empêcher que ça arrive, mais une fois que c'est arrivé, il est évident que je ne vais pas m'engager dans l'armée irakienne pour combattre l'armée française.
Bon, ce qui est assez révélateur, c'est que tous les journalistes en fait qui ont soufflé sur les braises au tout début du conflit, quand cette crise en fait est montée de façon très médiatique, eh bien aujourd'hui ils sont quand même un petit peu plus silencieux, dans la mesure où bien évidemment, ce que tout le monde avait souligné, c'est pas eux qui vont aller se battre, ce sont des unités comme les légionnaires, enfin tout ce qui forme l'élite de notre armée, qui est décrié à longueur d'année et qu'on l'on fait passer pour des violeurs de petites filles et des assassins potentiels. Eh bien, on est bien content aujourd'hui de les voir les armes, les FAMAS braquées sur les dunes irakiennes. Et bon, c'est quand même assez significatif. C'est toujours on dit souvent que ce sont c'est une image, une boutade, mais que ce sont les gens de gauche qui déclarent les guerres, les gens de droite qui les font. Oui. Il est vraisemblable que dans une compagnie du 1er régiment étranger de cavalerie, les trotskistes ne se comptent pas sur les doigts de quatre mains.
Je ne sais pas si c'est une affaire de droite et de gauche, mais il est certain que les bellicistes du mois d'août étaient tous des pacifistes enragés en général. Oui. Quand on a lu les éditos de Serge Julie au mois d'août, on est réjoui jusqu'à la fin des temps.
C'est le moment comique.
C'est le moment comique, mais il n'y avait pas que lui. Et c'est là qu'il faudrait peut-être, le plus gros enseignement de cette guerre, qui n'en est pas une pour l'instant, et touchons du doigt, espérons qu'elle ne va pas en devenir une, c'est vraiment les médias. On disait tout à l'heure, est-ce que la perte de civisme a été programmée? Moi, je pense qu'elle a été programmée depuis longtemps à travers l'éducation nationale, mais également à travers les médias. Et cette année, alors on a été bien servi, je dirais en 90, au moins sur Timisoara, Carpentras et le golf, la désinformation, le brouillage de tous les esprits, c'est clair. Ouais. Il y a une volonté de pêcher en eau trouble et de rendre tout citoyen incapable d'analyser la situation et de faire preuve de
d'intelligence et de volonté.
C'est la première guerre mondiale de la société du spectacle.
Bien sûr,
alors, c'est exactement ça. C'est extraordinaire. La radio est quelque chose qui me fascine complètement parce que, je ne sais pas, voilà, message d'un auditeur. Il est scandaleux d'entendre de Beketch dire qu'il se désintéresse du problème palestinien. Est-ce que j'ai dit ça une seule fois? J'ai dit le contraire pendant une demi-heure.
C'est trop compliqué.
C'est prodigieux. Enfin, non, monsieur, je ne me désintéresse pas du problème palestinien. Je m'y intéresse dans la modeste...
Un jour, d'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant de faire un débat, mais ce serait un petit peu plus long sans doute, sur le problème, non pas de la guerre, mais sur le problème de la paix. Car jusqu'à présent, les plans de paix au Proche-Orient, ils ne sont pas très très nombreux. Il y a quelques résolutions des Nations Unies, mais il serait quand même intéressant, dans le grand déblocage international actuel, d'essayer de faire avancer ce débat sur la paix et non plus sur la guerre. Mm-hmm. Car au fond, il y a quand même en Israël, comme chez les Palestiniens, mm-hmm. un certain nombre de gens qui essaient de garder leur raison et la tête froide, et qui se disent qu'on ne peut pas éternellement jouer au bord du gouffre, et qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir faire la paix. Alors cette paix, comment peut-on la faire? Quelles sont les données internationales, proche-orientales? Quel peut être le rôle de la France? Là, je crois qu'on a un débat passionnant.
Le problème était, si j'ose dire, d'une simplicité infernale. C'est impossible. C'est impossible pourquoi? Ça, c'est ce que personne ne veut admettre. C'est impossible parce qu'il est absolument impossible d'élaborer une société multiraciale. Ça n'existe pas. Et il est évident que la solution aujourd'hui, ce serait qu'en Israël, les Palestiniens aient les droits qui leur reviennent, les Israéliens aient les droits qui leur reviennent, et que ces gens-là vivent en bonne intelligence avec un gouvernement qui serait non pas fait d'israélites ou de chrétiens ou de musulmans, mais de monsieur Tartampion, monsieur Tartemel et monsieur Tartemuche, l'un étant musulman, l'autre s'en foutant complètement, le troisième étant juif, le quatrième étant chrétien, ou bouddhiste, ou n'importe quoi, car c'est pas en ces termes qu'il faut poser le problème. Or, c'est une impossibilité fondamentale. C'est une impossibilité. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que les Israélites, qui savent très bien que c'est impossible en Israël, ils le vivent quotidiennement, il n'y a pas un ministre palestinien au gouvernement israélien, je suis fou. Quatre ministres arabo-musulmans. Or, je ne vois pas pourquoi les Juifs de France veulent imposer des idées que les Juifs d'Israël savent impossibles à appliquer. Et c'est pour ça, c'est parce que je dis ce genre de choses qu'on me traite d'antisémite. Mais il faudra me démontrer que ce que je dis n'est pas vrai. Si on me démontre que c'est faux, on pourra dire que je suis un menteur. On ne pourra pas dire que je suis un antisémite parce que ce n'est pas encore la démonstration.
Oui, je ne suis tout de même pas d'accord sur un point. La société multiraciale ou multiethnique que tu décrivais a déjà existé. C'est exactement celle qui a existé au moment des grandes invasions en France. Il y avait les Burgondes qui avaient leur loi, les Francs qui ripuèrent qui avaient la leur, etc. Et ça marchait,
oui, mais tu sais,
ça marchait très bien, les grandes invasions.
Voilà. C'est exactement ce qu'avait dit, par exemple, le ministre de la Circulation en Belgique. Il dit, bon, on va régler le problème de la circulation, les Wallons rouleront à droite et les Flamands rouleront à gauche. D'ailleurs, après tout, il n'y a pas de raison. Pourquoi pas, hein? C'est le droit des Flamands de rouler à gauche.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne la façon de poser le problème. Je crois que le problème de la paix au Proche-Orient n'est pas un problème intérieur israélien seulement. C'est un problème de relations entre les différents pays du Proche-Orient. Il est évident que l'Occident a des responsabilités considérables dans cette situation. Donc, je crois que si on peut profiter du nouvel équilibre mondial, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, je n'en sais rien, pas plus que personne, mais si on peut profiter pour faire comprendre à un certain nombre d'États du Proche-Orient que la guerre, de toute façon, ne leur sera plus facilitée, car c'est ça le véritable problème, à ce moment-là, ils seront peut-être obligés de s'entendre. Et on ne peut pas concevoir une paix au Proche-Orient qui se ferait dans le cadre d'Israël et d'Israël seul, sans que l'environnement des pays voisins soit concerné.
Là, c'est pour ça que Bush aurait été très bien. Bush aurait été très bien inspiré de prendre Hussein au mot et de mettre effectivement tout à plat sur la table, faire la grande conférence sur l'ensemble du Moyen-Orient.
Mais là, ça va en opposition avec le mouvement actuel qui a démarré au milieu des années 70 et qui est l'intégrisme juif, intégrisme musulman, revivialisme du côté des chrétiens.
Mais ce sont deux impasses, on ne peut pas.
Et on va vers des oppositions.
L'intégrisme n'a jamais amené à des situations.
Ah non, mais on est bien d'accord, mais c'est pour ça que ça va être
de plus
en plus difficile.
Oui, mais il faut absolument lutter contre cela. Et avoir le courage de lutter contre tous les intégrismes, et non pas seulement contre un seul. Je veux dire par là que si vous avez un intégrisme, quelle que soit la couleur politique que l'on a, et je parle de politique au sens le plus général du terme, moi j'apprécie qu'on ait des idées fortes, mais je n'apprécie pas qu'on soit intolérant. Donc c'est ça, il faut qu'en chacun de nous, en nous-mêmes, nous combattions notre intégrisme qui finalement est peut-être une des données de notre caractère.
Cela dit, il faudrait faire attention au mot intégrisme.
Au moins, oui, c'est ça, oui, oui, un gros
ça,
piège.
Ça, oui, ça demande, ça c'est demande des précisions. Vous avez raison. On les utilise pour d'autres.
Voilà. Dans le même discours, sujet, on parle de Khomeini comme un intégriste et de l'abbé Laguérie comme un intégriste.
Voilà, c'est ça. Alors,
il faut quand même pas tout mélanger.
Il y a des abus.
C'est pas tout à fait la même chose.
C'est ça, c'est un piège.
Ouais, c'est un mot piégé qui sert d'ailleurs très très.
Par hasard d'ailleurs.
Qui sert énormément à la gauche. Oui, un auditeur nous demande de rappeler que dans le cadre de l'important débat sur la morale internationale qui vraiment préside à l'heure actuelle à toutes les décisions qui sont prises, ce qui se passe en ce moment dans les pays baltes, c'est la conséquence de l'approbation par l'Occident, approbation pleine et entière par l'Occident, du pacte, enfin des actes secrets du pacte germano-soviétique. Car c'est parce que ça a été décidé par le pacte germano-soviétique que les soviétiques ont pu annexer les pays baltes. Et personne n'y a jamais trouvé à redire, y compris d'ailleurs sur le plan financier, puisque l'or, les réserves d'or de certains pays baltes ont été refilées aux soviétiques, par les Anglais notamment, alors que la France ne l'a pas fait, pour autant que je sache, ou l'a fait très tardivement. Voilà, alors on va quand même rigoler 5 minutes, on va parler de politique intérieure, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a un monsieur qui, moi, m'amuse énormément, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est monsieur Noir. Je voudrais bien qu'on en parle un petit peu, parce que là, il a donc, on le sait, il a démissionné, il se représente, on ne sait pas, faire et défaire, c'est toujours travailler. Et alors, on essaye de comprendre pourquoi il a démissionné. Alors, il a donné une réponse qui est publiée dans le Figaro, le Figaro du 5, je crois, janvier, du 5, oui, c'est ça, 5 ou 6 janvier, à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour les élections législatives partielles, qu'il a provoqué en démissionnant de l'Assemblée nationale, Michel Noir, hier sur RTL, a précisé les raisons pour lesquelles il a décidé, il y a un mois, de retourner dans les électeurs de la deuxième circonscription. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose de sympathique et de rassurant dans cette affaire, c'est que le Front National, avec un seul élu au Parlement, arrive à faire démissionner des députés. C'est quand même pas mal, puisque Noir a démissionné, Dubernard a démissionné, et Barzac a démissionné à la suite de Noir. Donc ça fait quand même 3 députés. On a flingué, le Front National a flingué démocratiquement 3 députés de la fosse, de l'opposition. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Noir. On lui demande pourquoi vous avez démissionné. Et il dit, voilà, il fallait un choc, un électrochoc dans l'opinion, des problèmes importants n'ont pas de réponse. Ce qui conduit les citoyens à désespérer du monde politique, je pense que cet état d'esprit est le plus beau boulevard élyséen pour Le Pen. Ça fait penser à « Ce sabre est le plus beau jour de ma vie », cet état d'esprit est le plus beau le boulevard. Bon, il faut qu'il y ait un sursaut. Alors, si je comprends bien, Michel Noir a démissionné parce que l'état d'esprit des Français hostile ou indifférent ou désespéré à l'endroit du monde politique, doit être modifié c'est-à-dire que cette désespérance doit être corrigée, doit être guérie. Autrement dit, Michel Noir a pensé que sa démission était de nature à guérir les Français du désespoir. On pourra en conclure que si les Français étaient désespérés, c'est parce qu'ils savaient que Michel Noir était député. Ça serait peut-être un peu rapide, j'irai pas jusque-là, mais enfin, je trouve extraordinaire quand même cette argumentation, parce que, très franchement, pourquoi les Français désespèrent-ils des hommes politiques? C'est parce que, en majorité, il faut bien dire en majorité, les hommes politiques sont incompétents, sont malhonnêtes, souvent corrompus, souvent absents de leurs fonctions, je ne parle pas seulement de l'absentéisme à l'Assemblée nationale, mais souvent absents de leurs simples responsabilités. Enfin, il suffit de voir la façon dont les choses se passent, par exemple, le silence absolu de l'opposition, par exemple, la coalition des crapules et des imbéciles pour voter l'amnistie, tout ça, c'est de nature à désespérer les Français. Michel Noir dit « Ce désespoir conduit les Français à ouvrir un boulevard pour Le Pen ». Autrement dit, c'est parce que les hommes politiques sont incompétents, malhonnêtes, insuffisants, que les Français s'en désintéressent. C'est clair, me semble-t-il. Ce que je veux dire par là, c'est que Le Pen, mais bien sûr qu'il a raison, mais ça veut dire que Le Pen, ça n'est pas le mal,
Mais le recours.
C'est le recours.
Remède.
Et c'est extraordinaire de voir comment un homme politique, dont on peut penser qu'il est intelligent, noir, c'est pas forcément un idiot, il doit, enfin, pour être arrivé où il est arrivé, maire de Lyon, il est grand en plus, deuxième ville de France, ou troisième.
Ça c'est un grand joueur. Il joue aux échecs en plus.
Et en plus, c'est un joueur d'échecs, il a même battu en blitz Kasparov.
Puis il fait des avions.
En plus, les journaux écrivent ça sans broncher.
Oui.
Mais vraiment, quand je dis qu'on nous prend pour des imbéciles,
ah ben ça, oui.
Là, j'avais une photo de Noir face à Kasparov et Noir a battu Kasparov en blitz. Alors que l'autre, il a même pas dû, il a dû jouer les yeux bandés et les mains attachées. En blitz, c'est la partie ultra rapide. Il a dû jouer avec une main attachée dans le dos. Il avait 12 coups d'avantage. À mon avis, il avait le roi et un pion et l'autre, il avait tous ses pions. Bon, non, mais en face, tout ça est grotesque. Alors, ce type, qui est quand même pas forcément un imbécile, pose un diagnostic qui est bon et il dit ce qui rend malade, ce qui vous donne des... c'est exactement l'histoire du café, du sucre. Qu'est-ce que le sucre ? C'est ce qui rend le café amer quand on n'en met pas dedans. Hein ? Qu'est-ce que Le Pen ? Le Pen, c'est ce qui pourrit la politique française parce qu'il n'y est pas. C'est exactement la démonstration que nous fait Michel Noir. Alors, moi je dis que dans ce cas-là, la meilleure façon de marcher, la meilleure façon de lui démontrer qu'il a tout à fait raison, c'est d'élire les candidats du Front National. Parce qu'une fois qu'ils seront dedans, ils ne seront plus à l'extérieur. Il y aura quelque chose de changé dans la politique française. Donc les raisons du désespoir des Français seront éliminées. C'est pour ça que, tout en étant parfaitement indépendant à l'égard du Front National, si j'étais amené à voter à Lyon ou à Paris, je n'hésiterais pas à élire un candidat du Front National, d'autant qu'à Paris, c'est mon directeur qui se présente, ce qui le rend encore plus sympathique. Mais, bien sûr. Alors à ce propos, je voudrais signaler que le 23 janvier, on aura le temps d'en reparler, 91, à 20h précises, il y aura un grand métage au Palais des Congrès de la Porte Maillot, avec pour la première fois depuis 6 mois, Jean-Marie Le Pen qui prendra la parole. Pas tout à fait 6 mois, depuis les BBR, disons. Jean-Marie Le Pen, Marie-France Tirebois et Serge Martinez, 23 janvier 91 à 20h au Palais des Congrès de la Porte Maillot. L'entrée, c'est 40 francs. Vous savez que le Front National fait payer l'entrée. Les autres payent les gens pour entrer dans leur meeting. Le Front National fait payer les entrées dans ces meetings. Déjà, ça, c'est une différence. Rien que pour ça, je vais vous dire.
Faut voir.
Rien que pour ça, il faut voter pour les gens du Front National. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens font beaucoup moins de meetings quand ils sont élus que quand ils sont candidats. Par conséquent, vous allez faire des économies. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront tous au Parlement, ils seront plus là pour vous dire « il faut venir dimanche m'écouter, dépenser 30 francs ». En plus, Olyndre fait toujours le coup du drapeau à la sortie. Si bien que 30 francs, vous mettez 100 francs dans le drapeau à la sortie. Vous vous faites agripper, vous vous faites placer un abonnement à National Hebdo. Vous vous faites National Hebdo ou d'autres d'ailleurs, mais on vous dit « hop, il faut vous abonner ». Alors, c'est des journées à 500 francs, ça. D'ailleurs, à ce propos, vous allez voir que je ne mens pas, car au Palais des Congrès de la Porte Maillot, il y aura 100 places d'honneur qui seront réservées, c'est-à-dire que les places d'honneur, la différence principale des places d'honneur avec les autres places, c'est qu'elles sont plus chères. C'est comme les petites cuillères de Pierre Dac, 12 petites cuillères à 10 francs, 120 francs, les mêmes plus chères, 12 francs. Ben là, c'est vous avez des places à 40 francs et les mêmes plus chères, 500 francs. C'est pour soutenir financièrement l'action et la campagne du Front National à Paris. Alors, si vous voulez les places à 500 francs, c'est très très facile. Demain, vous téléphonez à Minute, vous demandez Madame Varlet, et elle vous dira comment on fait pour avoir des places à 500 francs. Si vous voulez des places à 40 francs, c'est pas la peine de vous déranger, et vous achèterez vos places en arrivant.
Une petite anecdote simplement que j'ai.
Oui, Fabrice Solé.
Qui était que j'ai relevé dans Libération ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit écho qui émanait d'un collaborateur de Michel Rocard, donc Premier ministre. Disant que selon un sondage effectué assez récemment, le Front National recevrait en cas de d'élection présidentielle anticipée 18%. Jean-Marie Le Pen donc aurait 18% des suffrages au premier tour et au deuxième tour, car il irait donc au deuxième tour 35%. Et alors le simple commentaire donc de ce personnage avisé étant dans l'entourage d'un des hommes politiques les plus éminents de l'État, c'est 35% de cons, c'est vraiment désespérant. Je pense que s'ils en sont là, il y aura beaucoup de monde au meeting
oui.
Que vous avez annoncé.
Mais j'aime bien, ça c'est les socialistes qui par exemple quand ils parlent de Le Pen, ils parlent du mouvement national populiste. Parce que, évidemment, je dois dire, quand on voit...
Pour Valéza aussi,
oui,
c'est le suprême.
Mais quand on voit comment vivent les ministres, les sous-ministres, les secrétaires d'État, les élus socialistes, Quand on voit, par exemple, le petit déjeuner, ça m'a frappé beaucoup, ces images qu'on a vues, le petit déjeuner chez Jox. On sent, c'est des mecs, ils sortent de rien, il faut dire, c'est rien. Hein. Pour être socialiste, il ne faut vraiment pas être grand-chose intellectuellement.
Pas Jox, qui est une famille aisée.
Oui, Jox, c'est un bourgeois dépravé, c'est autre chose, perverti. Mais la plupart sortent de rien. C'est bon. Alors, ils ont claqué du bec pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans. D'un seul coup, ils sont ministres, sous-ministres, et on met des nappes. Eh, pour le petit déjeuner, ils mettent des nappes, les mecs. Il y a des verres en cristal. Ah, incroyable. On a le choix entre jus d'orange ou jus de pamplemousse. On peut avoir des tartines grillées. Hein. Nous, quand j'étais petit, dit le ministre socialiste, à la maison, on mangeait à la carte. On distribuait les cartes. Celui qui avait l'as de pique, il avait le droit de bouffer. Alors, vous les sentez, ils sont là, ils sont installés. Ah, oh, ils se gobergent, ils s'en mettent plein la lampe. Alors effectivement, quand on leur dit après, vous savez que Le Pen, le peuple vote pour lui. Ah, le peuple, ah, les vilaines bêtes. C'est du national populisme. Ça pue les ouvriers, je les ai connus. Mon père en était un. C'est ça le discours du ministre socialiste. C'est extraordinaire. Extraordinaire.
Il y a d'ailleurs un mot fameux à ce propos, enfin non pas directement concernant les socialistes, mais je crois que c'est dans une pièce de Slavomir Mrozek, c'est difficile à prononcer, mais c'est un...
Bravo.
J'y suis parvenu, c'est un remarquable auteur dramatique, et il disait, il y avait deux répliques dans cette pièce qui m'ont particulièrement amusé. La première, c'est, on disait, mais puisqu'on ne peut pas dissoudre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. Et la deuxième, c'est un messager du parti qui allait répandre la bonne parole dans les populations et qui rentre en disant « Le peuple fidèle m'a cassé la gueule
». Bah, c'est peut-être ce qui va leur arriver un jour. Ça, faut bien dire que ça leur pend au nez comme un sifflet de dessous, comme disait ma pauvre grand-mère.
Est-ce que voilà. Je pourrais revenir sur oui. Michel Noir?
Oui, bien sûr.
Ou plus exactement sur Michel Barzac, puisqu'elle fait partie de son équipe. J'ai vu dans le journal du dimanche une interview de Michel Barzac, dimanche dernier. Alors j'ai été tout à fait sidéré, parce que elle explique qu'il faut changer, bien entendu, que le socialisme c'est pas bien, et que la droite avait voulu essayer autre chose. Alors en 86, on a proposé le libéralisme, et puis ça n'a pas marché parce que c'est pas assez humain, etc. Alors ça, c'était les propos qu'elle tenait sur un marché. Et moi je trouve ça extravagant qu'on puisse parler d'un programme, quel qu'il soit, mais enfin d'un programme qu'on veut soumettre à l'approbation des Français, comme d'un produit qu'on vend. Alors c'est aussi l'illustration de cette société de consommation. On vous propose un peu de libéralisme. Ah, vous en voulez pas? Ben écoutez, j'ai un autre produit qui est pas mal non plus, on va vous donner ça. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave, j'en ai encore derrière. Tout ce qui n'est pas en vitrine n'est pas forcément absent du magasin.
Oui, ça, vous pouvez demander à l'intérieur si vous n'avez pas trouvé en vitrine.
C'est ahurissant.
Et comme il y a surproduction, il y a moins de consommateurs et donc il y a moins d'électeurs. Et voilà. Ça donne l'abstentionnisme.
Exactement.
Oui. Alors, à ce propos, d'ailleurs, Michel Barzac a dit quelque chose. Elle a dit, je serai élu au deuxième tour, et je serai élu grâce aux voix socialistes. Donc, il est parfaitement clair maintenant que Michel Barzac est la candidate du Parti socialiste. D'ailleurs, quand on regarde qui est le candidat socialiste dans la circonscription, on comprend bien que la candidate socialiste, c'est un ectoplasme, il n'a aucune existence réelle. La candidate socialiste, c'est Michel Barzac. C'est Joko.
C'est Joko.
Non, mais personne ne peut citer son nom. On peut citer Galy Dejean, qui existe, qui est le candidat officiel du RPR. On peut citer Michel Barzac, qui existe. On peut citer Serge Martinez, qui existe. Et puis derrière, il y a 8 candidats. Il y a un candidat communiste. D'ailleurs, c'est admirable. Moi, j'ai au fond, je le disais l'autre jour, une certaine 1. Eh bien, 8 et 3.
Ah oui, d'accord.
Oh, Victoria, je vous en prie.
Mais non, c'est 11 et 3, 14.
Mais non, n'importe quoi. Contentez-vous de corriger mes fautes de français. Vous occupez pas de mes fautes de calcul. On parlera de ça en micro. Oui. C'est extraordinaire. Moi, j'ai une admiration, je dois dire, pour les communistes qui continuent à se présenter aux élections. Parce que le candidat communiste, dans le 15e arrondissement, s'il fait 4%, il peut considérer que c'est une victoire historique. Et il se présente. Il va faire des affiches, il va faire du collage, il va aller sur les marchés, il va vendre sa salade. Il va probablement, si les Français n'étaient pas si fatigués, ils prendraient probablement quelques tomates. Parce que, je veux dire, pour arriver devant les commerçants des marchés en disant « Bonjour, je suis candidat du Parti communiste », il faut être gonflé quand même. Hein. C'est à cause des idées que je défends qu'il y a eu 200 millions de morts depuis 1917 et que la moitié de l'Europe est réduite à l'état de pays du tiers-monde. C'est absolument faramineux. Et alors, votre bilan, monsieur? Ben, mon bilan, il est globalement positif. Très bien, je vous remercie. Vous pouvez disposer. C'est beau. C'est beau comme l'antique.
Et au-delà de ce que nous avons dit, je me demande si cette opération de Michel Noir n'est pas quand même en train de sonner le glas du RPR. Parce qu'il y a quand même plusieurs mois et même presque plusieurs années que le RPR est secoué de mouvements
extrêmement divergents. Jusqu'à présent, Chirac a réussi à maintenir à peu près la cohésion, mais au prix d'une gymnastique particulièrement fatigante. Et là, vraiment, dans le cas où Michel Noir réussirait une percée, il est évident qu'il attirerait à lui un certain nombre de parlementaires RPR qui verraient peut-être là une garantie pour de futures élections. Et il est évident que Jacques Chirac va avoir de plus en plus de mal à maintenir l'unité de son mouvement. Et ça, c'est quand même un fait politique majeur. Enfin, on anticipe peut-être, je ne sais pas ce qui se passera le 23, mais c'est quand même une hypothèse qui n'est pas à exclure, parce que on a vu la tentative de Pasqua et de Séguin, on a vu un certain nombre d'autres manifester des velléités d'indépendance. Bon, jusqu'à présent, ça ne s'était pas traduit par quelque chose de réellement marqué sur le paysage politique, mais là, c'est véritablement une sécession, il y a une démission, il y a un acte. Je n'en vois pas la justification idéologique, mais j'en vois très bien la justification politique. Ça, c'est tout à fait clair. Noir a décidé de faire sa propre formation politique et d'aller vers les élections présidentielles. Alors, est-ce que, face à cette situation de véritable tornade à l'intérieur d'un parti politique, est-ce que Chirac va pouvoir maintenir le cap? Ça, c'est une question qu'on peut se poser.
Ce qu'on dit partout, c'est qu'il va faire une déclaration d'ici quelques jours pour se resituer clairement à droite. Essayer de reprendre un électorat qu'il a déjà une fois essayé de capter, puis perdu par toutes ses erreurs.
Il y a surtout une nouvelle bouleversante quand même pour M. Chirac, c'est que M. Abridoux, ci-devant maire d'Aulnay-sous-Bois, a quitté le RPR pour aller au CNI.
Dangereux extrémiste.
Je pense que le mouvement gaulliste ne s'en relèvera pas.
Bah écoute, la question c'est de savoir si le CNI va s'en relever. Bon, non, je ne sais pas pourquoi on est désagréable. Enfin, pourquoi je suis désagréable avec Abridoux, qui est plutôt sympathique, parce que...
Oui, mais enfin, admettez comme moi, Serge, que quitter le RPR pour aller au CNI, c'est quand même un peu incongru comme démarche.
Ça veut dire
la première démarche est plutôt saine, parce qu'il a peut-être compris certaines carences, mais pour quitter Chirac pour se jeter dans les bras de M. Briand, je ne sais pas, doit palmer de M. Briand, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Laissez passer le temps pour qu'il adhère...
De l'Atlantide.
Pour qu'il quitte le CNI pour adhérer au Front National. C'est un chemin, il fait... Bon, il y a des étapes. Normalement, ça va arriver. Mais autrement, c'est trop difficile. Alors, je voudrais terminer quand même, parce que messieurs Martin Pelletier et Claude Reichmann, je vous ai invités pour ça aussi, en vous demandant de nous parler de vos revues. Qu'est-ce que c'est que cette revue Rive Gauche pour Claude Reichmann et Rive Droite pour Martin Pelletier? On va commencer par la Rive Gauche, peut-être.
Si vous voulez.
Qui est plus ancienne que la Rive Droite. Vous savez que la Seine a eu une Rive Gauche bien avant d'avoir une Rive Droite.
Oui, oui, c'est un phénomène géographique bien connu. Alors, eh bien, écoutez, Liberté Rive Gauche est une lettre politique, plus qu'une revue. C'est une lettre politique qui a vu le jour sur la Rive Gauche où j'ai mes activités. Par conséquent, elle a pris ce titre, et également parce que la Rive Gauche, ça a un sens, je crois, pour les Français. C'est un certain amour des choses intellectuelles et du beau langage, parfois. Bon, ça n'a pas d'autre connotation, bien sûr. Une petite anecdote amusante, lorsque le premier numéro est paru, et lorsque l'association qui s'appelle, comme cela aussi, a publié ses statuts, j'ai reçu un certain nombre de lettres de militants socialistes me demandant dans quelle tendance de la Rive Gauche je me situais. Alors je leur ai évidemment répondu qu'il s'agissait purement de tendance fluviale, non pas politique.
Ils n'étaient pas au courant.
Voilà. Et donc cette lettre politique a un grand avantage. D'abord, c'est qu'elle s'équilibre elle-même par ses lecteurs, sans publicité, ce qui est quand même assez rare. Bon, les lecteurs sont au nom. Il y a un millier d'abonnés. Bon, il est évident que c'est difficile à faire parce que c'est une lettre d'opinion et que, d'ailleurs, actuellement, elle a provisoirement, non pas cessé sa parution, mais elle a suspendu pendant quelque temps parce qu'on est en train de restructurer complètement la revue pour essayer d'en faire quelque chose de plus ambitieux. Et elle a eu quand même un certain nombre d'effets parce que, je vais vous donner un exemple. Bon, on ne se contentait pas, bien sûr, de parler d'affaires locales. D'ailleurs, les lecteurs sont situés un petit peu partout en France. Mais lorsque la Bibliothèque nationale a crié au secours parce que ses livres s'acidifiaient, les 1 270 000 volumes de la Bibliothèque nationale étaient menacés de destruction. Ils le sont d'ailleurs toujours, même si un plan de traitement est en cours. Et j'avais étudié la question et j'avais remarqué qu'il fallait trouver 370 millions pour sauver le patrimoine français. Alors j'avais donc écrit un article et où j'avais fait remarquer qu'il était tout de même extravagant de dépenser 600 millions pour l'Institut du Monde Arabe. Je ne suis pas du tout contre le fait qu'on fasse un Institut du Monde Arabe. Je veux dire que la France a toujours une politique arabe. Il n'y a pas de raison qu'on méprise tout ce qui peut être attaché à la culture arabe. Mais il était tout de même extraordinaire qu'on commence par privilégier une culture étrangère. alors qu'on n'était même pas capable de sauver le patrimoine national. Et j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'un certain nombre de parlementaires avaient, à la suite de cet article, déposé des propositions de loi visant à sauvegarder la Bibliothèque nationale. Bon, c'est un exemple entre plusieurs du fait qu'une petite revue, parce qu'on ne peut pas prétendre être une grande revue quand on tire à si peu d'exemplaires, peut avoir son influence, et j'en tire une deuxième et dernière conclusion, c'est que ce que j'ai appelé dans mon livre la classe parlante, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui ont le droit de parler, c'est quelque chose d'odieux. Bon, les Français aspirent à parler, et ils n'ont plus le droit de le faire, puisqu'ils ont le droit de se taire chez eux devant leur télévision, et ils n'ont pas le droit de parler ailleurs. Donc, je crois que de plus en plus, il faut essayer de donner la parole aux gens ou de la prendre. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que vous faites bien dans les différents journaux. J'ai remarqué en particulier que dans votre numéro d'aujourd'hui de la France Minute, vous donniez une plus large place encore aux lettres de lecteurs. Je crois que c'est une très bonne chose.
C'est très important.
Oui, c'est très important. Les Français ont besoin de s'exprimer. Ils ne se sentent plus représentés ni par leurs hommes politiques, ni par leurs journalistes. Et donc, je crois que la classe politico-médiatique est quand même en grande partie responsable, même s'il y a des individus tout à fait respectables et tout à fait admirables dans ces corps de métier, mais elle est quand même en grande partie responsable de la crise actuelle.
Alors, je vais vous demander l'adresse de votre revue.
165 rue de Rennes, Paris 6e.
165 rue de Rennes. Et on peut donc écrire pour avoir
un spécimen, tout à fait.
165 rue de Rennes, la revue Liberté Rive Gauche. Et puis alors, Martin, il te reste 2 minutes et demie pour nous parler de Rive Droite.
Alors, Rive Droite est beaucoup plus récent. C'est une revue littéraire qui, dont le premier numéro est paru en même temps que l'an dernier, en même temps que la règle du jeu de BHL, et un peu pour lui faire pièce. Alors, la droite a actuellement beaucoup de bons hebdomadaires, dont Minute La France dans Valeurs Actuelles, un bon mensuel.
National
Hebdo, un bon mensuel comme Spectacle du Monde. Il y a des revues.
Le choc du mois.
Jamais en oublier parce que.
Ah oui, pardon, c'est très mauvais. Il faut aller vite. Alors, également, on a des revues religieuses comme Reconquête ou La Nef, mais il n'y avait pas grand-chose au point de vue littéraire. Alors, bon, maintenant, il existe quelque chose qui n'est pas encore très ambitieux. Le rédacteur en chef en est Eric Neuf, qui travaille au Figaro Madame. Alors, ce n'est pas une revue dont les rédacteurs sont tous très engagés à droite, mais c'est une revue dont les rédacteurs sont tous assez du conformisme de gauche. Et alors, ça donne quelque chose quelquefois d'un peu futile, mais quelquefois d'assez drôle. Et voilà, c'est tout. C'est pour essayer de faire sortir des textes littéraires qu'on ne peut pas faire sortir ailleurs. C'est bien
ça. C'est tout le talent de la droite d'écriture, que cette futilité.
Qu'on essaye de retrouver parce que c'est un peu perdu. Et alors, ça permet de donner soit des nouvelles, soit des contes philosophiques, tout ce qu'on veut.
Voilà. Alors l'adresse, si on peut
l'adresse évidemment, comme je n'ai plus pas, je l'ai perdu.
Il faudra que tu nous la donnes demain, parce que si des auditeurs veulent la savoir, ils vont téléphoner à Françoise Varlet à Minute au 40 05 10 91 et elle ne pourra pas leur donner la réponse. Alors tu me promets d'appeler demain.
Je promets d'appeler.
Merci Claude Reichmann, merci Fabrice Solé, vous restez avec nous puisqu'on va recevoir quelqu'un qui vous intéresse particulièrement. Merci Martin Pelletier, Nicolas, vous restez aussi. Et puis, dans quelques minutes, la deuxième partie de cette émission avec des invités, un invité au moins assez inattendu.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, sur 95.6 MHz. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 9 janvier de 18 à 21h, et en différé le jeudi 10 janvier dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, adhérez à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
C'est pour la Sainte Russie, pour la vieille tradition, pour la gloire.
Alors on fait quelques annonces peut-être.
Ah bah oui, alors faisons des annonces.
La Librairie de France annonce la parution de son catalogue, dont l'entête est une citation de Rivarol, l'imprimerie et l'artillerie de la pensée. Vous pourrez vous la procurer à la Librairie de France, boîte postale 2037, 55 rue Franklin, 69 227, Lyon, CEDEX 02.
Le
téléphone, alors, boîte postale 2037, 55 rue Franklin, 69 227, Lyon, CEDEX 02, et le téléphone est 72 40 20 32.
Puis on se croirait dans un cours de maths. 72 40 20 32, 67 rue de la Poupée qui tousse, 92 2700.
On vous demande pas de multiplier, c'est déjà ça. Hein.
C'est déjà ça. Alors, je voudrais vous donner lecture d'une lettre que j'ai reçue de l'association Credo de M. Plasson. Qui nous remercie, je ne vous donne pas lecture de la lettre, mais il nous remercie d'avoir parlé de cette revue, qui est d'ailleurs tout à fait remarquable, ce bulletin trimestriel qui est remarquable, et il nous demande de ne pas l'oublier sur Radio Courtoisie, ce que je fais bien volontiers, d'abord parce que ça démontre que cette radio a une certaine audience, ce que nous n'ignorions pas, et puis ça démontre aussi qu'elle est ouverte à tous, puisqu'on m'a fait de vifs reproches, figurez-vous, parce que la semaine dernière j'ai reçu le représentant de la NEF. Parce que la nef, c'est la tradition, mais pas la tradition des sacres, c'est la tradition du côté Vatican. Alors j'ai eu des reproches de la part de ceux qui défendent la tradition avec Mgr Lefebvre. Je pense que le jour où je recevrai Mgr Lefebvre une fois de plus à ce micro, j'aurai des reproches de la part des autres, comme ça, ça équilibrera la balance, et je serai très content. Oui, non Philippe, ça, c'est pas radiophonique d'abord. Alors donc, voilà. Je veux dire simplement à ce propos que toutes les organisations, toutes les revues, toutes les publications, toutes les personnalités de la famille, je sais de quoi je parle quand je dis la famille, ont droit, ont place dans cette émission. Et que je recevrai tout le monde, et que c'est pas la peine de m'engueuler quand je reçois X, parce que je continuerai à recevoir X, et, ou quand je reçois Y, parce que je continuerai à recevoir Y. Et voilà, et c'est tout, et c'est ce que je voulais dire, et voilà, et toc. Je vous rappelle, tiens, est-ce que j'ai parlé du grand meeting du 23 janvier 91 à 20h précises avec
vous
Jean-Marie Le Pen,
le
Marie-France Tirebois et Serge Martinez?
Répétez, voir un peu.
Alors, Jean-Marie Le Pen.
Oui.
Oui, ça vous dit quelque chose.
Oui, oui,
ça,
on ça voit, on
pas,
voit.
Hein. La pauvre Victoria, c'est dramatique.
Écoutez, moi, Marie je France, suis l'auditeur bonjour. Moyen.
Ah, oh, bah bravo. Ah, bah alors, dites donc, eh bah c'est très bien. Alors, Jean-Marie Le Pen, Marie-France Tirebois, députée de l'Eure, et même. Pour plusieurs heures. C'est amusant, non?
Oui, oui.
Oui, bon, moyen. Et Serge Martinez, secrétaire de la Fédération de Paris du Front National, candidat au Front National aux élections, du Front National aux élections, aux législatives partielles, Paris 15e, et oui, on fatigue, c'est l'âge aussi, le 23 janvier 91 à 20h précises, au Palais des Congrès de la Porte Maliotte.
Et en plus, c'est député de l'Eure-et-Loire.
Qui?
Madame Stierbois.
L'Eure-et-Loire, n'importe
quoi. C'est Philippe qui vient de me souffler ça dans le creux de l'oreille.
C'est pas brillant ce que vous faites. C'est du sabotage.
Sabotage.
Bon, on réglera ça en micro. Alors, vous avez une autre annonce à faire?
Troisième voie, et Jean-Gilles Maliarakis vous prie de bien vouloir honorer de votre présence les deux conférences débats qui se tiendront salle des agriculteurs, 8 rue d'Athènes, dans le 9e à Paris. Alors, demain, jeudi 10 janvier à 20h sur le
thème... Ou ce soir, si c'est l'émission qui passe le jeudi matin.
Ou ce soir, si c'est l'émission qui passe. Hein. Jeudi 10 janvier, sur le thème « La volonté de puissance dans l'œuvre de Frédéric Nietzsche ». Et le jeudi 24 janvier à 20h, sur le thème « L'œuvre de la Tour du Pin et le centenaire de Rerum Novarum ».
Rerum Novarum. Je vous informe que un des premiers livres de mon excellent camarade ADG vient d'être publié en collection Folio. Ça s'appelle « La nuit des grands chiens malades ». Et c'est une très 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 jolie histoire qui se passe autour de Châteauroux et de Bourges. C'est pas mal du tout. La nuit des grands chiens malades chez Folio.
Naissance de National Gastronomie. L'épicerie fine des nationalistes qui sera ouverte dans un premier temps tous les samedis de 9h30 à 19h au 11 de la rue de Bernouilly, siège du Front National Parisien, dans le 8e arrondissement, et le dimanche de 9h30 à 13h30 sur le parvis de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. On pourrait trouver dans cette épicerie des vins, du champagne, des fromages, des
huleux... Bah, ce qu'on trouve dans une épicerie...
Tout. Ne jetez donc pas votre argent à gauche.
Pas de chaussettes tricotées pour nos soldats.
Il y a tout. Qu'est-ce que vous aimez?
Pas de chaussettes tricotées pour nos soldats.
Pas encore, mais ça va venir.
Bon. Association pour la vérité de l'information, vous avez été une conférence sur l'islam en France. Danger, point d'interrogation, je le précise pour les écouteurs du Mrapli Krahenko. C'est l'islam en France, danger, point d'interrogation. Ce qui veut dire que la réponse est peut-être non. Donc c'est pas la peine de poursuivre. Par monsieur Jean-Pierre Hollander, juriste, éditeur et écrivain, le 25 janvier 91 à 20h30 à l'hôtel Ibis, 18 rue Ferrare, 77300 Fontainebleau. Ça c'est proche de nos amis de Radio Renaissance. Alors si vous voulez y assister, eh bien vous envoyez un chèque de 50 francs, 30 francs pour les moins de 25 ans, avant le 21 janvier, date limite et date sinistre en plus, le 21 janvier, à l'adresse suivante, monsieur Luc Gramsch, G-R-A-M-S-H, Gramsch, 6 rue de la Chênaie, 77380, Combes-la-Ville. Je dis Combes parce que Combes-la-Ville, c'est vraiment pas joli, j'arrive pas à m'y faire.
Combes, on dit pas Combes.
Bah oui, bah j'ai dit Combes-la-Ville,
bon, c'est plus joli. Le groupe des droites européennes organise un colloque dont le thème est « Le bilan du communisme », génocide humain, catastrophe écologique. Alors, le mercredi 16 janvier, de 10h à 12h30, introduction par Bernard Anthony, Jean Madiran, Roland Gaucher et Serge de Becquet.
Ouais, moi, j'ai préparé un discours.
Sur la Russie.
Une heure de discours, je vous préviens. Une fois que vous êtes rentré, plus personne ne peut sortir.
Casse-croûte. 14h30 à 17h, Jean-Michel Rudan, Pologne-Ukraine, Thibault de la Tocnay, Amérique centrale, Alain Sanders, l'Indochine. Et le jeudi 17 janvier, 10h-12h30, Bruno Gollnisch, la Chine, Hugues de Keralie, le monde hispanique, Yvan Blot, les Balkans. Puis 14h30 à 16h30, Bernard Lugan, l'Afrique, ne pas rater. Jean-Paul Gabriel, le bilan écologique. Conclusion par Jean-Marie Le Pen.
Chiant. Bon. Voilà qui est inattendu.
Ah ben, il faut peut-être leur dire où, hein. C'est Espace Moncassin, 164 rue de Javel, 75015 Paris.
C'est toujours des adresses simples.
Félix Faure.
Réservez votre après-midi du dimanche 27 janvier pour participer à la collation à 15h, à l'issue de laquelle nous tirerons les rois. Nous aurons ainsi l'occasion de nous rencontrer et de faire connaissance dans une joyeuse et amicale ambiance, d'aider la langue et la culture de notre pays. Alors, qui peut demander mieux? Elles en ont bien besoin. Notre réunion sera placée sous le thème de l'aberrante réforme de l'orthographe. Il n'est point nécessaire d'insister sur l'importance de cette rencontre. Nous comptons donc sur votre présence et celle de vos amis et relations. Parlez-en autour de vous. La participation aux frais s'élève à 50 francs par personne. Veuillez établir le chèque à l'ordre de l'ADLCF, ADLCF, c'est difficile à dire, CCP N 13-376-91 T, Centre Paris. Nous vous prions d'agréer, etc. Alors, c'est l'Association pour la défense de la langue et de la culture française qui vous invite à tirer les rois le 27 janvier.
On a tout compris.
Voilà, c'est tout. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous demandez toujours. Ouais, faut garder le papier, voilà. Quoi d'autre? Vous voulez plus rien dire, c'est fini?
Sur les petites annonces, non, mais il y a eu des dépêches qui sont tombées.
J'espère qu'elles se sont pas fait mal.
Elles se sont peut-être fait un peu mal. Alors, elles sont d'ailleurs d'une grande tranquillité. Rien n'a filtré des entretiens James Baker-Tarek Aziz.
C'est ça, l'information, c'est qu'il n'y a rien à dire. Bravo.
Mais compte tenu de la durée de la réunion, commencé à 11h30, s'est terminé à 19h, on pense qu'il s'agit en fait de véritables négociations.
C'est formidable. On croirait du Coluche. Vous vous souvenez,
Fabrice? Ah oui, ça c'est génial.
Le numéro de Coluche qui disait « On s'autorise à dire dans les milieux autorisés ». C'est exactement ça.
Alors à Genève, par contre, l'arrivée inattendue, ce que je disais tout à l'heure, du ministre des Affaires extérieures algérien, Ahmed Ghazali, a fait l'effet d'un véritable coup de théâtre. Quant au président de la République, il ne semble pas pressé d'envoyer Roland Dumas en Irak.
C'est peut-être Roland Dumas qui n'est pas pressé d'y aller.
Non, c'est pas ça, mais il pense que quand on entreprend des conversations de ce type, il faut au moins que ça serve à quelque chose. Et tel n'est pas présentement son sentiment. Alors bon, puisque c'est pas la peine, autant pas y aller. Voilà.
Oh, puis en plus, ça nous coûterait des sous. Il a bien raison. Le capitaine Sergent a publié un communiqué à la suite de l'émission de Pierre Abramovici, l'OAS et De Gaulle, qui a été diffusé, les deux émissions qui ont été diffusées.